Alien et les garçons, épisode 47. Bienvenue dans 3 mondes meilleurs.
Bonjour et bienvenue à bord d'Alien et les garçons, épisode 47. Bonjour Vic.
Bonjour Thomas.
Bonjour Florian.
Bonjour Thomas.
Comment il va Florian ?
Bah il va très bien. Dis donc, mon coup d'état n'aura pas duré très longtemps quand même.
Non, bah attends, il faut savoir reprendre les choses en main à un moment donné. Hein. C'est Cuba. Hein. Vic, comment il va ? Il est orange ?
Il est totalement orange et il va bien. Toujours en train de couper du bois, toujours en train de s'occuper dans la campagne.
Un conseil jardinage peut-être ?
Un conseil jardinage.
T'avais une rubrique, tu sais.
C'est vrai, j'avais une rubrique. Alors, un des meilleurs trucs à faire le matin si vous vivez à la campagne, c'est quand il s'agit d'aller faire pipi, plutôt que d'aller faire pipi dans les toilettes, aller faire pipi dehors, ça réveille dès le matin.
Et ça fume.
Ah, tu m'étonnes.
Et c'est un truc de dingue. Mais alors, sauf quand il pleut, là, c'est vraiment pas très agréable. Mais quand il pleut pas, allez-y, c'est super. Et si vous êtes un garçon aussi.
Bah, tu peux le faire quand t'es une femme aussi. Hein.
Tu peux le faire quand t'es une femme, mais c'est quand même un petit peu plus technique. Mais tu peux, oui, c'est vrai.
Alors justement, je reprends mon rôle d'host après ma petite parenthèse Covid et je dois vous avouer un truc. Je vais me confier un peu à vous parce que Céline et les garçons, on est entre nous. Je suis un peu en proie au doute parce que Florian, il faut l'avouer, t'as été excellent, n'est-ce pas ?
Ah, merci beaucoup.
Est-ce que je vais être à la hauteur à nouveau ? Est-ce que les gens finalement, ils vont pas envoyer des messages et dire non mais on veut Florian ? Thomas, c'est du passé. Thomas, c'était 2018, 2019 peut-être, mais c'est tout.
Et à tel point. Vois-le plus tôt. Vois-le plutôt comme une opportunité, comme une sorte de renouveau, tu vois. Tu peux te challenger et reprendre ta place de leader au sein de ce podcast.
Est-ce que tu veux dire que ce qui ne me tue pas me rend plus fort?
Exactement, Thomas.
C'est beau ce que tu dis. Et je parlais justement de messages parce qu'on a reçu un message d'une auditrice qui crie le sex appeal qu'on peut qualifier, je pense, de féroce de Florian, n'est-ce pas?
Il est timide, il n'ose pas répondre, mais oui,
il n'ose pas dire oui. Je pense qu'il a rougi, il a levé les épaules. Ouais. Dans le même temps, cette personne-là, elle a aussi vanté le génie créatif de Vic, ce qui est vrai.
Tout à fait, c'est vrai.
Et en même temps, c'est un génie créatif, c'est vrai. Et moi, moi.
Tu m'as fait tellement rire.
Voilà. Donc, ouais, moi, elle m'a qualifié de prof de latin.
Non, elle t'a pas qualifié de prof de latin. Elle a dit qu'elle aimait bien ton côté, philo-littéraire.
Philo-littéraire ou philo-linguiste, je sais plus quoi.
On sent qu'elle a cherché quelque chose à mettre pour moi pour pas me vexer. Et pourtant, je suis vexé. Donc, voilà. Donc, je reprends mon rôle d'host, mais je le reprends
en homme blessé.
Ouais, non, je le reprends en homme blessé, en homme qui doute. Et voilà. Peut-être que je vais raccrocher après, je sais plus. Je suis perdu. Je vais quand même tâcher d'être à la hauteur. C'est pas une chanson, je vais être à la hauteur.
Non.
Être à la hauteur.
Si, c'est non. Ça, Emmanuel Moir.
Emmanuel Moir.
Vous savez que la grand-mère d'Emmanuel Moir habitait en dessous de chez moi à Villeurbanne ?
Mais non.
Tout ça est vrai, mais si, j'avais déjà un petit gros chemise à l'époque.
Et t'as déjà vu Manu ou pas ?
Non. Non, ma mère l'a vu, mais moi pas.
Ta mère avait. Non, laisse tomber.
Je crois que je vais garder mon rôle de host. Finalement, je suis vraiment content. Merci Florian de me redonner du baume au cœur. T'es vraiment le meilleur. On va enchaîner parce que là, on raconte un peu notre vie. On a beaucoup de choses à dire. Le thème du jour, qu'est-ce donc ?
Le thème du jour, c'est résurrection.
Résurrection, effectivement. Un thème qui nous a été donné par Anajib. Alors Anajib, pour vous raconter, si on avait instauré à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, je voulais instaurer un classement de nos auditeurs préférés dans l'émission. Et d'ailleurs, au moment où je vous le dis, je me dis, c'est peut-être pour ça que les auditeurs me détestent, en fait. C'est parce que je propose des trucs comme ça. Bon, je sais pas. Et en tout cas, Anajib, si on avait eu ce classement, je pense qu'il aurait été, il aurait figuré en bonne position, parce qu'Anajib, c'est notre seul, ou en tout cas notre seul auditeur identifié, du Tchad. Et ça, c'est quand même super cool d'être écouté au Tchad, n'est-ce pas ?
C'est vrai, c'est cool, mais ouais, c'est vraiment pas très gentil envers Noémie, à qui j'ai octroyé la première place, justement, de notre classement.
Ah, je savais pas que t'avais fait ça. Ah,
donc, en fait, au bout d'un moment, il n'y a pas trop de choix, quoi.
Ok, très bien. Bah oui, enfin moi.
Elle a dit que Florian avait une jolie voix. Je comprends qu'il lui ait dit que c'était elle l'auditrice préférée.
C'est ton classement personnel alors, parce que enfin moi j'ai ressenti une vraie hostilité en mon encontre hein, quand même. Donc bon voilà. Bon,
il faut rester objectif, Thomas.
Mon préféré c'est Anajib, ok. Vic, de quoi parle ta chronique sur le thème résurrection?
Ma chronique, ça parle. Elle s'appelle Je, J-E, et c'est une chronique qui parle d'un lien qui unit un groupe d'êtres humains qui se trouve être à Paris, et un lien qui, vous le verrez, vous me direz, peut-être prouve que finalement, si la résurrection existe, on a peut-être oublié un petit détail à son propos, dont on pourra parler à la fin de la chronique.
C'est teasing excellent, bravo Vic. Florian ?
Bah pour une fois, je l'avais écrit.
Bah, mais quand t'écris, tu es bon. Alors, tes chroniques sont géniales. Pardon, Florian.
Je t'ai non seulement j'ai pas écrit d'intro pour ma chronique, mais j'avais même oublié qu'on faisait des intros pour nos chroniques. C'est pour dire, moi, ma chronique va vous parler.
T'as pas besoin, t'es beau, Florian, t'es super.
Ah, merci beaucoup, j'ai une belle voix. Ma chronique va vous parler d'un homme qui ne peut pas mourir. C'est impossible pour lui.
Pas mal.
Et toi, Thomas?
Un homme qui s'appelle Samsung.
Exactement.
Ah, tu t'as fait une voix?
Non, j'ai pas fait de voix, mais je le sais.
D'accord.
Parce que je suis la petite âme de Florian qui, sur son épaule, quand il l'écrit.
Il a accès à des informations prioritaires.
Et la tienne. Et moi, effectivement, moi, je vais vous parler de. Moi, c'est une chronique qui va être un peu à la frontière de l'utopie et de la dystopie, mais ça, à la rigueur, c'est classique. Et on va suivre un personnage à quatre moments différents de sa vie pour le voir évoluer, lui, et le voir changer, mais aussi la société en fond. Et c'est un peu particulier parce que c'est une chronique que j'ai tirée, vu que j'étais en plein déménagement, que j'étais en galère, que j'ai bouffé 3 mètres cubes de poussière depuis 2 semaines, là. En fait, j'ai tiré cette chronique d'une nouvelle que j'avais écrite au début de l'année, là. Donc j'ai un peu coupé dedans, etc. Et ça fait que c'est peut-être pas ma chronique la moins sentencieuse et la moins pompeuse. Et j'ai un peu peur de donner raison à Noémie. mais je pense qu'elle était intéressante quand même. C'est vrai qu'elle marche mieux en nouvelle parce que du coup c'est très écrit, etc. Mais bon, j'ai coupé dedans, j'ai modifié 2-3 trucs. Je pense que ça va être sympa quand même. Et du coup, ça sera un peu long, donc je passerai en dernier.
Très bien.
Voilà, et le plus important, parce que moi je suis pas là, la seule raison pour laquelle je suis là, évidemment, et vous savez quand je dis ça, que je dis quelque chose qui compte et qui est important, la seule raison d'être de cette émission, ma raison d'être à moi, ce qui conclura cette émission, c'est évidemment le quiz de notre Bradley Cooper à nous, à savoir Florian.
Alors déjà c'est le quiz, donc pardon, tu vas le calmer. Et de deux, je dois dire que le quiz, je pense qu'il va être très médiocre pour les auditeurs, parce qu'à mon avis, c'est pas très radiophonique, mais moi, il m'a fait beaucoup rire à l'écrire.
Écoute, tu nous as jamais déçus, jamais.
Et puis à chaque fois, tu as dit oui, non, le quiz, il est vraiment pas bien cette fois-ci. Vous allez voir, à mon avis, il va y avoir des déçus, etc. Et à chaque fois que tu disais ça, c'était un excellent quiz.
Et je préfère provoquer la bonne surprise plutôt que le regret, tu vois.
Oui, t'étais du genre, toi, tu sortais des contrôles de maths en seconde et tu faisais ouais, non, j'ai trop raté, c'était vraiment terrible. En fait, t'avais un 16, quoi.
Non, j'étais plutôt bon en maths en seconde, donc du coup, je sortais et je faisais chier tout le monde en disant oh, je crois que j'ai bien réussi, tu vois. Je suis plutôt le genre de mec.
C'est bien, Florian, c'est bien.
Vous parlez de surprise, je vais faire une transition, comme ça, c'est pas mal. J'ai décidé de tenter de redorer ma cote de popularité auprès de Noémie. Et pour ça, j'ai une technique implacable. Est-ce que vous savez laquelle, à votre avis?
Ah, je sais pas quelle est ta technique, mais attends. Je sens que le prof de latin, ça t'a marqué quand même.
Est-ce que Thomas, tu vas nous ressortir le portrait chinois des Glingos?
Absolument.
Mais non.
Face à la demande populaire, on a reçu plein de messages ces derniers temps qu'on parle. On a reçu des gens qui demandaient des dédicaces. Enfin, une personne qui demandait une dédicace dans notre bouquin Portrait chinois des Glingos. On a arrêté de le faire. On n'en parle plus. Les gens continuent à nous en parler, à nous envoyer des trucs, etc. C'est incroyable. Donc, du coup, je redors mon blason et je vais le faire aujourd'hui. Et je vous ai même pas, je vous prends par surprise, hein.
C'est
pas du tout démocratique. Je vous lance comme ça dessus aujourd'hui. Et peut-être qu'on en refera d'autres. Je sais pas, on verra. Mais c'est vrai que les gens en parlent tellement que c'est qu'ils devaient aimer quand même. On va faire aujourd'hui un portrait chinois des Glingos à l'ancienne. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ah bah complètement. Moi je regrette cette période du portrait chinois des Glingos.
Bah peut-être qu'on va le faire revenir, on verra. Parce que ça, on reçoit des messages qui nous demandent de l'air tout le temps. Donc pourquoi pas? Peut-être écouter les auditeurs à un moment donné. Vous êtes prêts? J'ai préparé du coup une question.
On n'est jamais prêt pour un portrait chinois des Glingos.
C'est vrai. Si vous étiez une pièce de la maison.
Maison, moi je sais direct.
Ou manoir ou n'importe quoi, ça peut être toutes sortes de pièces. Tu sais, alors Florian, on t'écoute.
Bah je sais direct et vous le savez aussi. Je serais une salle
tu
de bain.
Tu serais la salle de bain.
Mais direct.
Tu serais une baignoire, c'est ça que tu veux dire?
Je serais la salle de bain et je serais exactement là. S'il pouvait y avoir une pièce baignoire, comme au Japon, il y a des pièces baignoires. Je serais une pièce baignoire, quoi.
Mais c'est ça, t'es une pièce baignoire japonaise, Florian. C'est exactement ce que tu es.
Mais bien sûr.
Non, je suis tout à fait d'accord, ça va très bien. Moi, tu sais, j'avais un peu réfléchi avant, du coup, et je m'étais dit, Florian, que t'aurais pu être aussi un garage. Parce que c'est un garage, c'est là où on joue, c'est là où on bricole des choses, machin.
Ah non,
en fait, non. Toi, t'es effectivement une salle de bain. C'est sûr.
Oui,
une salle de bain cosy, hein.
Ah bah bien sûr, bien sûr. Et tu sais quoi, je vais vous raconter un peu ma vie. Quand je suis parti au Japon pour faire un superbe voyage, j'ai dormi dans une maison traditionnelle qui n'avait pas une pièce baignoire, mais qui avait une pièce onsen. Onsen avec vue sur la nature et sur les montagnes et tout, c'était juste magnifique.
Le onsen était privatif?
Pas mal.
Bien sûr.
Ah ouais, putain, Big Money, putain, ça paye le podcast, hein.
Ah bah, laisse tomber. Autant on a dormi dans des Formule 1 tout le voyage, autant on s'est pris une nuit et elle était pas mal.
Pas mal du tout. Vic?
Je pense que je serais une bibliothèque ou des toilettes Mais en tout cas, les deux en mezzanine.
Et surtout que les, on connaît tes toilettes et enfin ta vision des toilettes, c'est aussi des petites bibliothèques parce qu'il y a des livres dans tes toilettes.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai. Il y a tout à fait. Il y a des livres dans chaque pièce. Mais j'adore les bibliothèques. Donc après, j'ai jamais eu vraiment de pièce bibliothèque. Donc ça serait genre même au château, il y a pas ça.
Par contre, j'aimerais bien savoir ce que tu entends par autant tu vois une bibliothèque en mezzanine, j'imagine, parce que j'imagine que c'est ouvert un petit peu sur le salon, ce qui est en dessous, etc. Mais des toilettes en mezzanine, ça veut dire que c'est quand même ouvert sur le reste des pièces ou pas?
Eh ben écoute, je sais pas. En le disant, je me suis posé la question. Ça serait quelque chose à réfléchir un petit peu. Mais j'aime bien l'idée de la mezzanine et j'adore les toilettes et les bibliothèques.
C'est très une bien. Bonne réponse.
Mais j'ai pas de.
Non mais voilà, du coup, voilà. On va dire toilette parce que du coup, en effet, c'est une toilette mais avec des étagères partout, des piles de livres partout. Limite, les toilettes eux-mêmes sont des piles de livres. Tu sais, enfin, ça peut être cool, quoi.
C'est pas très hygiénique, mais c'est pas mal.
Tu peux t'essuyer avec des livres.
Ouais, toi, t'avais réfléchi.
Non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est sacrilège.
Moi, j'avais réfléchi un peu, effectivement.
Quelle est ta pièce?
Moi, je vais vous dire. J'aurais voulu être un patio, mais je crois que je ne suis qu'une buanderie. Et c'est terrible.
L'épisode victime.
Attends, parce qu'un patio, c'est le top du top. Moi, j'aurais voulu être un patio, mais je suis une buanderie. Une buanderie, c'est quand même pratique. Excusez-moi. C'est pas du tout pour me victimiser.
Oui, mais c'est pas la pièce qui fait rêver. Tu nous sors un patio ou une buanderie,
les toilettes,
quoi.
Et oh.
Oui, mais les toilettes, c'est quand même quelque chose de fondamental.
J'aimerais avoir une buanderie chez moi. Enfin, j'aimerais encore plus avoir un patio, mais une buanderie, c'est quand même pas mal.
Les toilettes, on appelle ça aussi le lieu d'aisance, tu vois. Donc, il y a quand même un aspect un peu
le trône,
tu vois. Donc, il y a quand même un aspect un peu valorisant dans les toilettes, autant que puissent être des toilettes. Mais une buanderie.
La buanderie, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Ça ressemble à rien comme mot.
Déjà le mot ne ressemble à rien, soit, mais c'est. Enfin, une buanderie, on y trouve plein de trucs. C'est super pratique, c'est un peu foutraque et
justement, en fait, en fonction de deux maisons différentes, une buanderie, je pense que les gens même ne le prennent pas de la même manière. En fait, ils retrouvent vraiment des choses qui n'ont rien à voir dans l'une.
Et c'est ça que j'aime bien.
Ah, tu veux dire que t'es un peu. Tu es multiforme.
Exactement, ouais, voilà, mais il y a quand même une base de. C'est là-bas où tu trouves la machine à laver et tout ça, quand même. Hein. Donc et c'est cohérent parce que les machines à laver, moi je suis un peu une machine à laver, c'est-à-dire que j'ai des phases très très bruyantes et des phrases très très silencieuses. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, je comprends. Non mais c'est bien.
C'est intéressant, c'est très étrange mais c'est très intéressant.
De toute façon, tout est étrange.
Voilà. Donc en gros, portrait chinois des Glingos, résultat des pièces de la maison, on est une salle de bain, des toilettes et une buanderie, quoi.
C'est gros. J'avoue que je m'étais imaginé, tu sais, avec Florian, je m'étais dit qu'il allait dire garage, c'est vrai. Et toi, Vic, je me suis dit que t'allais dire un jardin d'hiver, tu vois.
Oh là là, quelle bonne idée j'aurais eue. Mais j'y ai pas pensé.
Ouais, bah forcément, c'est difficile. Moi, j'ai eu le temps. Enfin, bon, bref. Voilà. Je crois qu'on a fait, une intro extrêmement longue, mais il fallait la faire. Il fallait faire ça. Le portrait chinois des Glingos est de retour. Est-ce qu'il reviendra la semaine prochaine, dans 3 semaines? Est-ce qu'il reviendra l'année prochaine? Je ne sais pas. On verra. Pour relancer 2021, peut-être. En attendant, on va attaquer les chroniques de tout le monde. À moins que quelqu'un veuille ajouter quelque chose, peut-être.
J'aimerais parler des thèmes. Pas qu'on en ait plus, on en a quand même une sacrée pelotée de thèmes, mais si ça se dit, je ne sais pas, je ne pense pas, mais c'est pas grave. Mais il nous faudrait quand même de nouvelles personnes, parce que on a quand même mis en avant beaucoup de personnes pendant ces 47 épisodes, je crois que c'est le 47e épisode, donc du coup, ça serait bien de choisir des thèmes de nouvelles personnes. Voilà.
C'est très clair. Effectivement, non mais en fait, ouais, on a encore pas mal de thèmes, mais je crois qu'on en a jamais eu aussi peu, entre guillemets. Enfin, pas jamais aussi peu, mais ça fait longtemps. En gros, si vous voulez, on va faire simple, si vous voulez que votre thème soit choisi, c'est le moment ou jamais, parce que là, on en a moins que d'habitude. Envoyez des thèmes, c'est votre heure de gloire. C'est devenez vous-même Emmanuel Moir. Voilà. je sais pas comment retomber sur mes pieds, donc j'ai préféré retomber directement sur mon menton et m'éclater la tête. Est-ce que on attaque cette fois, n'est-ce pas?
On va attaquer là.
Allez,
c'est Vic.
C'est moi qui commence.
Ouais.
Ah,
j'ai
oublié.
Très bien.
Alors on attaque tout de suite avec ta chronique Vic que tu nous as teasé magnifiquement.
Je.
En ce moment même, sur le trottoir ouest de la rue de Bretagne à Paris, il y a précisément 173 personnes. Parmi ces 173 individualités, il y a Karim Taïeb. Karim Taïeb marche vite, à presque 8 km/h. Il est en retard. Dans le corps de Karim Taïeb, à cet instant précis, des millions de petites actions s'enclenchent les unes à la suite des autres en quelques millionièmes de seconde. actionnés par des filaments protéiques d'actine et de myosine, eux-mêmes générés par l'oxydation des lipides et des hydrates de carbone du corps de Karim Tayeb, les cellules de ces fléchisseurs solaires se déforment en va-et-vient plusieurs millions de fois par nanoseconde afin de produire l'énergie nécessaire pour tendre chacun de ses orteils à chaque fois qu'il pose un pied devant l'autre, facilitant ainsi la tenue d'une posture efficace et adaptée à sa locomotion, plus rapide qu'à l'accoutumée. C'est de l'autre côté du corps de Karim Tayeb, dans son cerveau, que plusieurs milliards de signaux électriques sont générés à chaque instant en flux quasi continu par son système nerveux, lui permettant d'intégrer des informations comme « Attention à l'enfant qui court sans regarder devant lui », ajustement directionnel d'une trentaine de degrés à droite, ou bien encore « Attention à la flaque », oxydation supplémentaire, lipido-carbonée, afflux sanguin, transformation énergétique, contraction, petit saut, atterrissage légèrement déséquilibrant, aïe, putain. Ou bien encore, sensation de sueur au niveau de l'aisselle gauche, contrôle olfactif rapide des substances chimiques volatiles, confirmation, je pue, putain, tant pis, pas le temps. Tous les mots prononcés par les hommes depuis que l'homme existe, mis bout à bout les uns après les autres, ne seraient suffisants pour décrire ce qu'il se passe en une seconde dans le corps de Karim Tayeb à cet instant, alors qu'il se presse sur le trottoir ouest de la rue de Bretagne à Paris. Si son organisme était agrandi à l'échelle de la Terre, chaque centimètre carré de cette planète serait recouvert d'usines de plusieurs dizaines de kilomètres de hauteur dans lesquelles s'affaireraient des milliards de milliards d'ouvriers hautement qualifiés à des tâches continues, ininterrompues et elles-mêmes hautement complexes. Mais ce matin, cette formidable technologie ne parvient pas à empêcher l'impact entre Karim Tayeb et Pascal Pierre, un autre des 173 individus présents à cet instant dans la rue, au moment où ce dernier sort du Carrefour Market du 35 rue de Bretagne. Les deux hommes se percutent. Léger froissement du tendon rotulien de Karim Tayeb, l'impact ne fait pas plus de dégâts. Les deux hommes s'excusent mutuellement, puis Karim repart, lui et son formidable attirail organique. Pendant les deux secondes qui suivent, Pascal Pierre le regarde en train de s'éloigner, emboîtillant mais pressamment. Vu de derrière, la silhouette dégingandée lui rappelle son cousin Christophe Clark. Tiens, d'ailleurs, Pascal se demande « Que fait-il en ce moment, Christophe ? Ça fait un moment qu'il ne l'a pas vu traîner dans le coin. » Pascal Pierre ne le sait pas, mais en ce moment, Christophe est en train d'envoyer un texto à Sandrine Weber, une jeune avocate branchée qu'il a rencontrée une semaine plus tôt, pas très loin d'ici, et avec laquelle il a déjà couché deux fois. On dit que le hasard fait bien les choses. Mais le hasard existe-t-il ? En tout cas, si les protagonistes de cette histoire savaient ce que je sais, ils se poseraient sûrement beaucoup de questions sur le hasard. Car Sandrine Weber est justement assise à la terrasse d'un café, en face de l'endroit où Karim Tayeb et Pascal Pierre viennent de se percuter il y a maintenant 3 secondes. Elle reçoit le texto de Christophe, le cousin de Pascal, mais ne le lit pas. Pas parce qu'elle ne veut pas le lire, elle apprécie assez les échanges avec ce nouveau prétendant dans sa vie, mais parce qu'en ce moment, elle est en train de commander. Perrier citron ou verre de Sauvignon ? Sauvignon ou citron ? Va pour le Sauvignon, dit-elle, avec un petit geste de la main, l'air de dire « Et après tout, il est déjà midi, non ? Et puis ça va, c'est bon, je ferai attention ce week-end. » Sandrine Weber se parle beaucoup à elle-même dernièrement. Et ce pour une raison simple, elle s'est rendue compte il y a peu qu'elle avait tendance à avoir du mal à se passer de boire depuis quelques mois. La veille, elle s'est même renseignée sur les différents types de dépendance à l'alcool. Elle pense que la sienne est de type comportemental. Ce n'est donc, selon elle, pas physique. Et si ce n'est pas physique, il y a encore un espoir, s'est-elle dit. Seule la physique est figée, a-t-elle pensé hier soir devant Wikipédia. Un verre de rosé à la main. En face d'elle, le serveur griffonne sa commande sur son carnet. Il s'appelle Théophile Manoukian. Il est en alternance. Lui, son rêve, c'est de faire de la... Pas le temps d'y penser. La vieille dame de la table 8 lève la main. Encore elle. Encore et toujours. Elle va encore lui tenir la jambe, trois plombes avec les mêmes histoires de quartier. La vieille dame s'appelle Josiane Breton. Mais ici, tout le monde l'appelle Josie la Bretonne. Et Josie la Bretonne vit dans la rue de Bretagne depuis qu'elle a 2 ans. Et autant dire qu'elle n'a jamais mis un pied en dehors de Paris. Elle n'est donc pas très bretonne pour une Josiane Breton vivant rue de Bretagne. Sur les 173 personnes actuellement en train de se déplacer, d'attendre le bus, de fumer des cigarettes ou de vaquer à leurs occupations dans la rue de Bretagne à cet instant, Josie en connaît 17 plutôt bien. Sur ces 17 personnes, 3 sont de vrais amis, de longue date. Le premier s'appelle Philippe Lecomte. C'est le boucher de la rue de Bretagne, situé un peu plus loin. Philippe Lecomte a 3 filles, Louise, Marie et Camille Lecomte. Camille Lecomte est en couple avec Luc Pierre, le fils de Pascal Pierre. Luc est aussi l'une des 173 personnes en train d'arpenter en ce moment la rue. Il marche vers la boucherie de Philippe Lecomte, le père de sa petite amie, et à sa grande surprise, alors qu'il s'allume une cigarette, tombe nez à nez avec son propre père à lui, Pascal Pierre, alors qu'il s'apprêtait à reprendre le chemin de chez eux avec ses sacs de courses du Carrefour Market du 35. Philippe ne sait pas que son fils Luc fume. Alors Luc jette sa cigarette sur le trottoir et avant que son père n'ait le temps de le voir, en profite pour se jeter lui-même à l'intérieur du bar dans lequel Josiane est en train de commander son verre en terrasse au jeune Théophile Manoukian. Enfin, Josie n'est pas réellement en train de commander son verre. Elle est plutôt en train, comme l'avait prévu Théophile, de lui parler de ses connaissances du quartier. Elle vient d'évoquer Philippe Lecomte, le boucher de la rue. Elle aborde maintenant le sujet hautement important de sa seconde amie. Il s'agit d'une Josiane aussi, comme elle. Mais elle, c'est Josiane Lenormand, vraiment normande pour l'anecdote. Mais elle vit depuis longtemps dans le quartier. Vous pouvez imaginer que Josiane Lenormand, la normande, et Josiane Breton, la parisienne, forment à elles deux un sacré couple d'amis bien connus du coin. Tout le monde a, au moins déjà entendu parler des Josianes. La dernière personne que connaît bien Josiane Breton et qu'elle évoque à présent à Théophile Manoukian, le serveur, c'est moi. Et moi, je m'appelle Eric. Eric Serge Laurence. J'habite au niveau du 73 rue de Bretagne. Je suis psychologue et à la retraite, bien que les gens continuent de défiler à la porte de chez moi. J'ai 74 ans et en ce moment, j'attends mon prochain patient en regardant les gens passer en bas dans la rue. Les 173 personnes qui actuellement s'y déplacent. Mon prochain patient est en retard. Vous le connaissez. Il s'appelle Karim Tayeb. Je m'apprête à lui faire une révélation de la plus haute importance. Une révélation qui se trouve plutôt être le fruit d'un long travail, plutôt qu'à proprement parler, une révélation. Cela fait maintenant 55 ans que je parle chaque jour avec les personnes de ce quartier dans lequel je vis depuis ma naissance. Je crois pouvoir affirmer avoir connu, à des degrés d'intimité variés, presque chaque personne ayant un jour ou un autre foulé régulièrement les pavés de la rue de Bretagne. En leur parlant, je me suis rendu compte des connexions entre toutes ces personnes. Ces connexions, que j'ai d'abord cru bon de classifier comme des coïncidences, se sont à force de recherche révélées être des liens plus forts que ce que la nature pouvait simplement organiser dans ce que l'on appelle le grand ordre des choses. Des impressions de déjà-vu, des liens qui n'avaient pas lieu d'être, des forces à première vue impénétrables que j'ai œuvré à pénétrer. Karim Tayeb, Pascal et Luc Pierre, Christophe Clark, Sandrine Weber, Théophile Manoukian, Josiane Breton, Philippe Lecomte, Louise, Marie et Camille Lecomte, Josiane Lenormand et moi, Eric, Serge, Laurence. Nous, avec chacun d'eux, je me suis découvert un lien direct. En parlant avec chacun d'eux, je me suis retrouvé moi-même, directement. En entrant au plus profond de la psyché de chacun d'eux, en les observant, en les analysant, je les ai compris. Et en les comprenant, je me suis compris. Et j'ai compris que nous ne formions qu'un. Et si je ne formais qu'un avec les habitués de la rue de Bretagne à Paris, il était clair que je ne formais qu'un avec chaque être humain aussi. Et même avec chaque être vivant foulant ou ayant un jour foulé cette planète. Je suis Karim, je suis les Josiane et je suis les Lecomte. Et je suis aussi tous les autres. Et tous les autres sont moi, vous. Vous là, qui m'écoutez à présent, vous êtes moi, je suis vous, et vous n'êtes pas que vous-même, croyez-moi, ni même que je ne suis pas que moi-même. Nous sommes tous je, nous ne sommes tous qu'un, liés par une force unique et physique, qui nous unit dans la vie et au-delà, vivant chacun nos vies de notre côté et ne vivant pourtant qu'une seule et même vie côte à côte. Une vie apparue il y a 4 milliards d'années, une vie s'étant reproduite, littéralement. Et à chaque reproduction perpétuée elle-même. Karim Tayeb sonne à la porte de chez moi. Il est en retard. Je suis en retard. Je suis arrivé à la porte de chez moi et je vais maintenant sécher la sueur apparue lors de ma marche effrénée dans la rue de Bretagne. Il ne faudrait pas que je sois incommodé par l'odeur qui émane de moi, alors que je me rencontre en consultation et que je m'apprête à me révéler le fruit de mes longues années de recherche. Je vais être choqué de l'apprendre, comme j'ai été choqué de le découvrir. Mais il est maintenant temps de me le révéler. Je m'ouvre la porte de mon cabinet de la rue de Bretagne.
Merci Vic pour cette chronique.
De rien Thomas.
Ça rime.
À nouveau une chronique deep sur le sens des choses, pourquoi la vie, qui sommes-nous, où sommes-nous, qui êtes-vous?
Nous sommes rue de Bretagne.
C'est une chronique, c'est même une chronique bouddhiste, un petit peu, moi je trouve. Enfin, une chronique, c'est en tout cas un beau message de paix, hein, One Love.
Et le thème le veut un petit peu, bien que ça ait été abordé par toutes les religions, la résurrection, ça le veut quand même un petit peu.
Oui, c'est pas faux. Mais en effet, enfin, moi je sais pas, je suis pas méga calé là-dedans, mais c'est vrai que j'y voyais un peu de bouddhisme, peut-être. Je sais pas, ouais. Si c'est une... Mais,
alors en fait, c'est parti de deux éléments dont je voulais vous parler. Le premier, c'est que j'ai arpenté pendant quelques temps, parce que j'y travaillais beaucoup, les trottoirs des Champs-Élysées à Paris. Et sur les trottoirs, à chaque fois que je regardais tout le monde qui défilait autour de moi, tous les gens qui passaient comme ça, sans regard les uns pour les autres, etc., j'ai toujours eu cette idée de me dire, tiens, c'est dingue. Tous ces gens, ils sont là comme ça, et chaque personne qui passe, ça marche partout, hein, pas que sur les Champs-Élysées à Paris, n'importe où, mais ils sont là, ils ont leur vie comme ça, etc. Mais si ça se trouve, il y a des liens qui existent entre eux, peut-être qu'ils sont liés par des choses, c'est un peu comme les 7 degrés de séparation, etc. Enfin, cette idée du trottoir, enfin, des gens qui marchent sur un trottoir, ça m'a toujours un petit peu travaillé. Et la deuxième chose, c'est quand je cherchais une idée sur la chronique, et je me suis dit, si la résurrection, enfin, c'est un domaine, pour le coup, la résurrection, on va voir comment vous l'avez traité ou ce que vous en pensez après ça dans vos chroniques, mais je me dis que c'est un sujet qui est vraiment super intéressant, parce que c'est un sujet, en fait, que la science peut pas elle-même traiter, en fait. Du coup, les religions, si elles sont appropriées, la SF aussi, mais il y a rien de très précis. Mais donc, si on part du fait que la résurrection est vraiment quelque chose qui existerait, mettons une vie après la mort, si ça a commencé avec la première forme de vie, au moment où la vie est apparue, si on se dit, il y a beaucoup de si, hein, bien sûr, hein, de toute façon, il faut bien des chroniques high concept, c'est souvent comme ça. Si on se dit que la vie est apparue en un point et qu'il y a eu ce processus de résurrection, et ben en fait, depuis le début de la vie, la première forme de vie, en fait, elle se résurrectionne, si on peut l'utiliser en verbe, perpétuellement, en fait. Et du coup, admettons que, je sais pas si tu reprends maintenant un thème religieux, genre Adam et Ève, par exemple, ou un espèce de couple fondateur, ou de tous les êtres, hein, pas forcément que les êtres humains. Et ben en fait, ce couple fondateur se serait résurrectionné à travers les âges jusqu'à aujourd'hui, ce qui ferait qu'aujourd'hui chaque être humain est descendant par l'âme, en tout cas,
et la même personne, comme tu disais.
Exactement, et la même personne. Voilà, tout à fait. Donc c'est de ça que je suis parti.
C'est magnifique, c'est magnifique.
Ouais,
mais ça veut dire. Attendez, est-ce que ça veut dire que toi,
tu peux coucher avec, ça se trouve, ta petite amie, c'est toi-même. Enfin, vous êtes la même personne.
Vous êtes honnêtement, t'as pas pris le pire exemple possible en choisissant. Et toi, parce qu'honnêtement, t'allais dire et ta mère. Je m'attendais à un truc vraiment terrible, mais bon.
Oui, non, parce que non, mais c'est pas pour ça. C'est juste pour dire que tu peux, ça se trouve, coucher avec. T'as une chance sur deux s'il y a vraiment. Tu peux coucher avec toi-même ou coucher avec l'autre personne.
Oui, tu penses à Adam et Ève là, mais bon.
Ouais, parce que scientifiquement, du coup, si on prend ton principe, on descend tous plus ou moins de la même matière originelle à un moment donné. Tu vois le même atome de carbone qui, en se désagrégeant ou en se recopiant, etc. et tout, en tout cas, se situe un petit peu à chaque étape dans tous les corps des êtres humains. Tu vois,
on est tous de la poussière d'étoile.
Tout à fait. De la poussière d'étoile.
Tout à fait. Oui, il y a un peu de ça. Exactement.
Ouais, c'est ça. C'est beau. C'est un beau message de paix. C'est exactement ça. C'est magnifique. C'est Yannick Noah, quoi. C'est beau. À nouveau, parce qu'on avait déjà fait un petit peu Yannick Noah la dernière fois, je crois, ou la fois d'avant, je sais plus.
La dernière fois, on parlait quand même beaucoup de tub et de sgeg.
Oui, c'était plutôt la fois d'avant. C'était peut-être l'épisode 45, le 46, c'était peut-être une autre thématique. Bon,
moi, ça me rappelle quand même beaucoup tous ces, vous savez, ces mêmes là sur Reddit et compagnie, c'est les shower thought, les pensées de douche ou les pensées de mecs défoncés, tu vois. Ouais. Ça fait un peu ça. J'aime beaucoup. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je crois que oui, mais je suis pas sûr. Ça fait tellement de temps qu'on enregistre des podcasts ensemble, les copains. Oui. Mais c'est comme, en termes de trucs qui est un peu fucked up et qui te bousille le cerveau. Sachez que dans vos rêves, toutes les personnes que vous croisez vous les avez forcément croisés au moins une fois dans vos vies. Il n'y a pas de création dans vos rêves. Donc si tu, par exemple, moi j'ai un rêve récurrent où je joue au poker avec un asiatique. Donc c'est assez récurrent comme rêve, je le fais assez souvent. Ça veut dire que cet asiatique, cette personne asiatique, je l'ai déjà croisé au moins une fois dans ma vie. Ça, quand vous savez ça. Ouais.
Du coup, tu te dis, mais où, le cerveau, à quel quoi. Moment et tout. Après, bon,
exactement.
Est-ce qu'on est sûr de ça? Voilà, moi, je crois plus rien à cette époque. Déjà, on nous a enlevé Professeur Raoult. Moi, je crois plus rien.
Moi, j'aime y croire. C'est un peu le côté magique, tu vois, de la vie. J'aime croire en ces petits instants de magie.
Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est très intéressant, Florian. C'est très intéressant, Vic. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était j'aime bien ce point de vue. Alors c'est un peu secondaire dans ta chronique, mais on a déjà parlé du sujet principal. Mais j'aime bien le point de vue qu'a Eric, un peu de, il est narrateur dans l'histoire, parce que c'est moi, il parle à la première personne, mais il est aussi un peu narrateur de son quartier, dans le sens où il est un peu omniscient, il connaît les histoires de tout le monde, et j'aime bien ce point de vue. Ce truc-là, un peu le mec qui est au-dessus, qui a un point de vue un peu zénital, un peu, et qui connaît un peu tous les liens, que les autres savent pas. Je trouve que c'est vraiment cool.
Ce qui est très cohérent en plus avec le propos de ta chronique. Quoi.
Ouais, bah c'est, je pense que c'est.
Il est, tout ça il est bien tout pensé, le monde, hein. C'est pour ça qu'il est narrateur, acteur en même temps, etc. Et tout. Et Thomas, j'aimerais pointer du coup que par cette intervention, tu viens de justifier ton statut de prof de langue, et de philosophie, quoi.
Eh bien, écoutez, je vous remercie et je conclurai cette discussion autour de ta chronique en rappelant que l'homme n'est pas un empire dans un empire, comme le disait Spinoza. Et on va passer à ta chronique, Florian. Si à moins que quelqu'un d'autre ait autre chose à ajouter, pardon.
Je pense que t'as tué le game.
Oui, bah évidemment.
Non, on est pas mal.
Samsung Galaxy, l'immortel.
Crissement de pneus, coup de volant à gauche, puis à droite. Le semi-remorque 33 tonnes perd l'équilibre et tombe sur le côté avant de glisser sur plusieurs dizaines de mètres. Sur son passage, il arrache la vie de l'homme qui s'était planté volontairement devant lui. Cet homme, c'est Sam. Il décède à l'instant même où la calandre du poids lourd percute sa boîte crânienne. Enfin, une seconde ou deux après. C'est la troisième fois cette semaine. Ce n'est pas la troisième fois qu'il passe sous les roues d'un camion, encore heureux, mais la troisième fois qu'il meurt. Car voyez-vous, Sam a la particularité physique, assez singulière il me semble, de ne pas mourir, malgré toute la meilleure volonté du monde. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé, mais peu importe la manière dont il passe l'arme à gauche, il se réveille quelques heures après sans la moindre égratignure. Un super pouvoir, en quelque sorte, mais dont il se serait bien passé. Sam, ou plutôt sujet numéro 12, comme il s'appelle encore à l'époque, est le fruit de l'esprit tordu d'un brillant et solitaire milliardaire en quête de vie éternelle et d'affection, du genre super vilain de comics américains ou bien Steve Jobs. La vérité se trouve certainement à mi-chemin entre ces deux propositions. Quoi qu'il en soit, il réussit, après plusieurs années de recherche, à cloner son propre ADN et à le mélanger avec la juste proportion de matériel génétique d'une sous-espèce de coléoptère. Rien de glamour, certes, mais visiblement très efficace. Les différents tests opérés sur le sujet numéro 12 démontrent une résistance parfaite à la douleur et une régénération quasi instantanée des cellules. En d'autres termes, il vient de créer un être immortel. Manque de chance, le riche patron meurt d'un AVC fulgurant, avant même d'avoir pu profiter de ce véritable miracle scientifique. Il laisse derrière lui sa gigantesque fortune, ainsi qu'un adolescent boutonneux de 10 semaines d'incubation tout au plus. Suite à ça, le gouvernement reconnaît l'existence du prépubère, jusqu'alors caché des yeux du grand public, et l'étrange affiliation à son père plus ou moins biologique. Il devient à l'âge de 12 semaines, le multimilliardaire le plus jeune de toute l'histoire. Au moment de signer sa déclaration d'identité, il choisit le premier nom qui lui passe par la tête. C'est ainsi que Samsung Galaxy voit officiellement le jour. Pour des raisons évidentes, la plupart des gens l'appellent Sam. Fraîchement débarqué dans un monde dont il ne connaît rien, le jeune homme invincible se retrouve livré à lui-même. Sam doit faire face à une phase d'adaptation durant laquelle il apprend à combler ses besoins vitaux primitifs par lui-même, comme manger, boire ou faire caca. Enfin, faire caca au bon endroit. Ce qui n'est pas chose aisée lorsque l'on passe la plus grande partie de sa courte vie coincé dans un labo à se faire dessus et qu'il y a toujours quelqu'un pour passer un petit coup de serpillière et échanger ses vêtements. Une leçon toutefois apprise rapidement alors qu'il défèque sur le sol d'une supérette de banlieue chic. Le gérant lui offrant la possibilité soit de nettoyer le sol lui-même, soit de se manger, je cite, « une mandale bien sèche dans la gueule ». Alors qu'il astigue vigoureusement le carrelage maculé de merde de la petite boutique d'alimentation, Sam se rend compte qu'il détient désormais toutes les clés de la vie en société. Après cette expérience ô combien instructive, il ne lui reste alors plus qu'à trouver la réponse à son ultime préoccupation. Que faire de ma vie ? Pour beaucoup, cette question existentielle trouve sa résolution à travers l'obtention d'un poste de cadre supérieur dans le marketing, l'achat d'une voiture de luxe à fort pouvoir statutaire, l'accouplement avec une femme ou un homme à l'attraction plus ou moins élevée, pour finir avec la production d'un héritage génétique sur pattes qui reproduira le même schéma, dans cet ordre-là ou bien dans un autre. Mais souvent dans cet ordre-là quand même. Pour Sam, c'est différent. Que faire de sa vie quand on peut potentiellement posséder tout ce que l'on souhaite? Quand on ne reconnaît pas son propre reflet dans un miroir? Quand on n'a aucun passé et un futur très incertain? Quand on s'appelle officiellement Samsung Galaxy? Mais surtout, que faire de sa vie quand on ne peut pas la perdre? Alors que Sam commade devant son tout nouvel écran LED Quantum Extra Plat de 292 pouces, la réponse lui saute au visage.
We just arrived at the heart of the Amazon forest.
Nous sommes arrivés au cœur de la forêt amazonienne. Cette jungle dans la jungle est très certainement l'endroit le plus dangereux de notre planète Terre. Elle recèle de nombreux mystères, mais aussi un nombre incalculable de bêtes sauvages prêtes à vous tuer à chaque instant. Araignées aux puissants venins, anacondas de plusieurs mètres de long, caïmans aux dents acérées, piranhas, jaguars, sans compter les plantes carnivores capables d'avaler un bœuf en quelques secondes, sont autant d'habitants de la forêt qu'il ne faut déranger sous aucun prétexte. Nombreux aventuriers ont tenté de percer le secret du cœur de l'Amazonie. Mais jusqu'ici, aucun homme n'a réussi à ressortir vivant de cet enfer terrestre.
But so far, no man has succeeded in coming back alive from this hell.
Serait-ce à cause de l'heure tardive ou bien de l'intonation moins de corps de cette voix off de documentaire animalier bas de gamme? Ces mots résonnent dans l'esprit de Sam comme une illumination divine. Il vient de trouver un but à sa misérable existence. Tenter de réaliser tout ce qu'aucun être humain mortel n'a jamais pu faire. Il passe les jours qui suivent à référencer toutes les tâches qu'il souhaite accomplir. Durant cette phase préparatoire, Sam meurt plusieurs fois de déshydratation et du manque de nourriture. Il reprend l'écriture de sa liste à chaque réveil, oubliant à nouveau de se sustenter. Lorsqu'il a enfin fini de la rédiger, il s'assoit dans son canapé. Ses yeux sont rouges et terriblement gonflés. La plupart des vaisseaux de ses globes oculaires ont éclaté. Il jette un dernier regard à sa liste, qui comporte désormais plusieurs dizaines de pages. Il se demande alors par quoi commencer. Mais avant même qu'une ébauche de raisonnement n'émerge de son cerveau, ses yeux se ferment contre sa propre volonté et Sam tombe de fatigue, littéralement. Il tombe sur le sol et meurt la bouche grande ouverte avec un filet de bave qui coule le long des commissures de ses lèvres. Le lendemain matin, il se réveille comme après une bonne nuit de sommeil. Il se prépare un petit déjeuner copieux, deux œufs, du bacon, quelques tranches de pain beurré et un bon jus d'orange, puis saute dans son jet privé, direction le cœur de l'Amazonie. Durant le trajet, il appelle les rédactions des journaux les plus influents au monde, leur indiquant ce qu'il s'apprête à réaliser. Si bien qu'à son arrivée, une horde de reporters l'accueille sur le tarmac. Sans plus attendre, l'immortel saute dans une jeep de location et se dirige, sous bonne escorte, à l'orée de la forêt amazonienne. À partir de là, Sam continue son chemin à pied, simplement armé d'une petite machette de loisir et d'un bob multicolore acheté à la va-vite sur le marché de Manaus. La file de journalistes le suit sur quelques kilomètres, mais après plusieurs heures de marche à travers les lianes et les toiles d'araignée, ils perdent tout espoir de ramener un scoop et abandonnent un à un le cortège. Seul un dernier téméraire, ou certainement le plus idiot de la bande, poursuit l'aventure. À la nuit tombée, Sam s'arrête net et se retourne vers son compagnon de route. Dans une tirade quasi christique, il le regarde droit dans les yeux et lui dit
« Diego, ton chemin s'arrête là. Le cœur de l'Amazonie se trouve juste derrière moi. Je reviendrai ici, à cet endroit précis, dans 7 jours et 7 nuits. J'aurai alors accompli ce qu'aucun homme sur Terre n'a réussi jusqu'à présent. » Tu auras le droit de prendre une photographie et une seule, et ainsi partager la bonne parole dans le monde entier.
Après ces quelques mots, il tourne les talons et s'enfonce dans l'obscurité. Il revient quelques secondes après, attrape une torche et repart. 7 jours passent durant lesquels le journaliste, qui ne s'appelle pas du tout Diego, souffre terriblement. Il n'a pas pensé une seule seconde que son reportage durerait si longtemps. Il n'a emporté que son appareil photo, quelques rations de survie, et de quoi dormir une ou deux nuits à la belle étoile. Pas de quoi survivre seul dans la forêt pendant presque une semaine. La faim lui tord les boyaux et son corps le démange de partout. Il commence à remballer ses affaires quand tout à coup, il entend du bruit en provenance d'un bosquet. Il attrape une branche d'arbre, d'apparence solide, prête à se défendre en cas d'urgence. Le son se rapproche au fur et à mesure que les gouttes de sueur coulent le long de son front. Au moment où la bête émerge de derrière les lianes, il crie de toutes ses forces en gesticulant les bras. Devant lui, un monstre couvert de poils et revêtant un bob multicolore le regarde, l'air interloqué. Sam est revenu, à l'endroit indiqué et à l'heure indiquée. Sans rien dire, il fouille dans un sac confectionné de lianes et de feuilles. Il en sort une espèce d'artefact doré et le porte à bout de bras au-dessus de sa tête. Une lueur mystique émane de l'objet en forme de sphère. Le journaliste, les mains encore tremblantes, attrape son appareil photo et appuie sur le déclencheur pour immortaliser le moment. L'instant d'après, un serpent bondit et mord Sam à la gorge. Il meurt sur le coup. Il se réveille le lendemain matin dans une chambre délabrée d'un hôpital de campagne brésilien. Dans la pièce, une télévision est allumée. Il tourne la tête pour l'observer et manque de s'étouffer en voyant sa photo diffusée dans le journal télévisé local. Le présentateur commente l'effet d'une phrase qui veut dire, dans les grandes lignes,
« Un abruti d'étranger pille nos trésors nationaux. »
Sam, qui ne parle pas un mot de brésilien, esquisse un léger sourire. Il a réussi. Non pas à survivre au cœur de l'Amazonie, mais à trouver un sens à sa vie. Dès son retour au pays, Sam s'attelle à la dure tâche de barrer chaque élément de sa si longue liste. Si le temps n'est pas un problème pour le jeune milliardaire, il souhaite s'y attaquer au plus vite. Il n'aimerait pas être dans la capacité de réaliser certains de ses exploits à cause de quelques malencontreux facteurs extérieurs, comme, par exemple, le réchauffement climatique, un conflit nucléaire ou encore une pandémie mondiale. Il commence par rayer la première entrée, le cœur de l'Amazonie, qui n'était ni plus ni moins qu'un échauffement, une vulgaire mise en jambe pour lui. Il ferme ensuite son carnet, attrape quelques caleçons de rechange, puis met le tout dans une valise, qu'il place de l'autre côté de la rue. Il revient chez lui, allume nonchalamment la gazinière, puis se sert un bon verre de brandy, dans une flûte à champagne. Après en avoir bu une gorgée, puis aussitôt recraché son contenu en faisant une grimace, il s'allume un cigare. Exploser sa propre maison, puis tout recommencer, check. Pendant les 10 années qui suivent, Sam enchaîne les actions toutes plus fun les unes que les autres. Visiter Hiroshima, check. Surfer sur un tsunami, check. S'attacher à un ballon météo, check. Il voyage dans le monde entier, découvre de nouvelles cultures, et toujours de nouvelles manières de se mettre en danger. Se déguiser en antilope et faire la course avec un tigre, check. Frapper un dictateur, check. Découvrir le goût de l'amiante, check. Les pages de son carnet se noircissent petit à petit. Il a d'abord pensé qu'il devait tout faire dans l'ordre, mais au cours de son périple, il a remarqué qu'il serait tout de même plus facile de regrouper les tâches par zone géographique. Jouer à la roulette russe avec un AK-47, check. Manger du saumon en face d'un ours, check. Plonger dans le puits le plus profond du monde, check. Sam vient d'avoir 30 ans, mais il a déjà vécu plus d'une centaine de vies, à durée plus ou moins variable. Alors qu'il se trouve au beau milieu du désert de Sibérie, il débouche une bouteille de champagne et en boit une grosse lampée, à même le goulot. Pour marquer le coup, il lance une fusée de détresse dans les airs. Lorsqu'elle explose, elle éclaire les environs de sa lumière rouge et dévoile une meute de loups prêts à bondir sur lui. Se faire dévorer par des loups, check. Prendre un bain d'acide, check. Se balader dans un parc la nuit avec un serial killer, check. Il ne reste plus beaucoup de pages non barrées sur son carnet, et ce ne sont clairement pas les meilleures. Le Sam du présent pousse un soupir d'agacement contre le Sam du passé, lui reprochant d'avoir manqué de créativité lors de sa phase de préparation. Visiter Hiroshima, nu, check. Surfer sur un tsunami, nu, check. S'attacher à un ballon météo, nu, check. La 10e année de son aventure ressemble fortement à la première. Alors qu'il est assis au sommet du mont Everest, nu comme un ver, il reprend son carnet et compare les pages. C'est bien ça. Sam est dégoûté. Il pensait avoir encore une bonne dizaine d'années devant lui. Au lieu de cela, il découvre qu'il s'est contenté de reprendre les premières entrées de sa liste et d'ajouter le mot « nu » à la fin de chacune d'entre elles. Énervé, il se jette dans le vide. Sauter du toit du monde, nu, check. Sam n'a plus d'idées. Il continue de parcourir le monde à la recherche d'inspiration, mais il a l'impression d'avoir tout fait, tout vécu. Histoire de se sentir vivant, il décide de mourir de manière plus conventionnelle de temps à autre. Hier, il s'est jeté sous les roues d'un semi-remorque, par exemple, mais il n'a rien ressenti. Aucun frisson, aucune adrénaline, pas même un picotement dans son gros orteil. Rien. Alors qu'il plante ses doigts dans une prise électrique, comme tous les dimanches après-midi, il est soudain frappé par un éclair de génie, mais aussi par 300 000 volts. À son réveil, il n'a rien oublié de sa vision et saute dans son jet privé. Le Kilauea. Situé sur une île, à Hawaï, c'est le volcan le plus actif au monde. L'idée lui est déjà passée par la tête, mais n'est jamais restée très longtemps. Sam a toujours rêvé de plonger dans la lave en fusion. Mais il y a un problème majeur. Chaque cellule de son corps est, certes, capable de se régénérer quasi instantanément, mais qu'arrive-t-il s'il n'y a plus aucune cellule à régénérer, si elles disparaissent tout en même temps ? Sam n'a aucune réponse à apporter à ces questions. Mais s'il a toujours repoussé la tentation de vivre cette expérience, le moment est désormais venu. Alors qu'il s'approche du précipice, une bouffée d'air chaud lui brûle le visage. Sa peau est très vite noircie par les fumées volcaniques. Il ferme les yeux, aussi bien pour les protéger de la chaleur que par peur. C'est la première fois de sa vie qu'il est si terrifié. Il inspire longuement, puis fait un pas en avant.
Bienvenue.
Où suis-je ?
Tu es au paradis, Sam.
Le paradis ?
Tout à fait, Sam. Tu sais, je t'observe depuis un petit bout de temps. Impressionnant tout ce que tu as fait en bas. J'ai pas très bien compris que t'as pas de nudiste, mais tout de même, bravo.
Attendez. Le paradis comme dans la Bible ? Là où on va après la mort ?
Tout à fait, Sam.
Donc, je suis mort ?
Oui.
Mais j'accède à la vie éternelle ?
Eh oui.
Donc je ne vais jamais vraiment mourir ?
C'est bien ça.
Et merde ! J'espère que vous vous attendiez pas vraiment à une fin parce que je n'ai pas vraiment fait.
Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une fin dans la vie ?
Non, mais d'ailleurs, ce mec-là n'a pas de fin dans sa vie parce qu'il meurt pas. Quoi.
Exactement. Enfin, je veux dire, c'est l'auteur a volontairement pas terminé sa chronique parce que lui ne termine pas sa vie. Enfin, je veux dire, tout ça est pensé et réfléchi et il y en a qui bossent.
Exactement.
Bosse, quoi.
Ouais, c'est pas du tout parce que j'ai pas du tout trouvé de fin à faire à cette chronique. Mais, pas du tout.
Évidemment, non, mais n'importe quoi. Qui penserait ça? Pas moi, je te le dis.
Personne.
Pas moi. Dieu à la voix de Vincent Cassel.
c'est la réflexion que je me faisais en réécoutant ma chronique. C'est fou comme à chaque fois Dieu a une voix très grave dans nos chroniques, mais même de manière générale dans la pop culture, tu vois.
Oui, c'est vrai. On devrait. Oui, après il y a quelques fois où Dieu était une femme, un truc comme ça. Je trouvais ça assez fort d'ailleurs, parce que voilà quoi, Dieu l'homme barbu, grosse voix. Mais bon, après c'est en podcast, on est un peu obligé de jouer avec les clichés parce qu'on n'a pas les images pour montrer les choses aux gens. Donc si tu demandais à ta copine de faire Dieu, ça aurait été un peu plus curieux quoi. Ça raconte autre chose.
Moi, je note ma première remarque, c'est quelle belle voix. Parce que déjà, j'ai trouvé que au-delà de la voix de Dieu, la tienne était bien plus sympa que celle de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me suis dit, t'aimes bien les expériences scientifiques. Hein. Ça fait quelques chroniques, ça fait quelques histoires, tu sais, à chaque fois avec des expériences scientifiques qui tournent mal, des scientifiques un peu ouf qui font des trucs qui font que bah tu peux raconter ton histoire, etc. Donc là, tu l'as justifié aussi comme ça.
Ouais, je l'ai même complètement assumé quoi pour le coup quoi.
Ouais, non mais carrément. Mais c'est juste, je me disais, c'est vrai, c'est intéressant. T'aimes bien ça, pourquoi pas la résurrection de ça. Après, je me suis noté, je suis sûr que ça doit exister un Samsung Galaxy. Je sais pas ce que quelque part dans le monde, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Samsung Galaxy.
Non, c'est possible, c'est sûr. Mais c'est sûr, c'est certain même. Mais je rebondis en fait sur l'espèce de concours que vous avez lancé sans faire exprès de choisir les meilleurs noms, etc. pour les personnages de chronique. Et moi, je suis toujours un peu à la traîne. Effectivement, je trouve que vos noms sont vraiment géniaux. J'aime bien les noms de mes personnages, hein. Mais du coup là je me disais bah les couilles, si pour une fois on mettait pas de nom mais on mettait une marque à la place d'un nom, et j'aime bien l'idée d'avoir, de prendre des noms de marque plutôt que des prénoms. Ah, mais c'est, ouais, ça changerait un petit peu.
T'as tout à fait raison, mais en plus ça existe, hein, parce que je sais qu'il y a eu un Facebook en Égypte, des trucs comme ça, de toute façon tout existe en nom, à tel point que je sais pas si vous avez fait gaffe qu'il y a 2-3 jours, il y a en Namibie, il y a Adolf Hitler qui a été élu.
Ah c'est vrai. Donc, ah ouais, exactement.
Donc tu vois, et je crois que c'est son prénom, parce que je crois qu'il a un nom de famille après le mec. Il s'appelle Adolf Hitler en prénom. Enfin, je trouve ça. Donc ouais, finalement Samsung, franchement pourquoi pas quoi. Franchement, je suis pas choqué perso. Non.
Et en soi Samsung, ça pourrait être un très bon prénom. Si c'était pas une marque, franchement c'est cool, c'est acceptable tu vois quoi.
Samsung, ouais. Y a,
ouais, Samsung c'est pas mal j'avoue. Ouais.
Tu vois Sony par exemple, c'est un vrai prénom.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Sony Anderson, quel footballeur incroyable.
Ouais.
Sony,
par exemple.
Sony Delight. Non.
Par exemple. Non, mais c'est vrai que par contre, on n'a pas de MacBook. On n'a pas de Oppo.
Mais Mac.
Oppo, la marque de.
Mac, c'en est un. Ah, c'est Mac. Un prénom, Mac.
Ah, Mac Lesguy, bah, tu crois que son prénom complet, c'est MacBook Lesguy?
Non, son prénom, c'est Jean-Yves. Mac. En fait, il est sponsorisé par Apple. Et ouais, non, mais
j'aime bien l'idée.
C'est drôle, les marques qui font de bons prénoms. J'y avais jamais pensé, je vais réfléchir si je trouve un truc.
Pensez-y pour vos prochaines chroniques.
Ouais, non, c'est intéressant. Même, j'y pense surtout en termes de paternité. Attends, je sais pas, je suis pas à l'abri d'appeler ma fille Toshiba. Hein. Bref.
Toshiba, ça claque, Toshiba.
Je sais pas si. Oh, Toshi, Tosh. Je suis pas sûr, je suis pas certain. Je sais pas.
Ouais, moi, j'aime bien Toshiba. Moi, j'aime bien aussi.
Moulinex.
Du coup, t'aurais pas dû me dire ce nom-là, parce que je me suis toujours dit, si le jour où j'ai un enfant, j'aimerais bien l'appeler par le prénom d'un enfant de mes amis, tu vois, juste pour le faire chier.
Ah ouais, je pense que ça ruine le truc.
Je suis pas sûr qu'il va vraiment l'appeler Toshiba, fais gaffe, hein, avant d'appeler la tienne.
Non, bien sûr. Non, mais déjà, mais
tu pourrais l'appeler Lidl, si c'était un petit garçon.
C'est Romanetti, Romanetti, ça pète.
Romanetti, c'est un peu italien.
Romanetti, ça claque.
Romanetti, ça sonne italien, en plus, c'est formidable.
Mais même Lidl, en vrai, Lidl, ça marche bien pour un petit garçon. J'aime bien l'idée.
Lidl? Ah, je trouve que ça fait plus
féminin. Ça marche mieux que Carrefour Market, ouais.
Carrefour Market, c'est plus compliqué.
Oui, ou que Procter & Gamble, quoi. Enfin, je trouve que c'est certain, quoi. Ah, et vous noterez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de marques, après on va peut-être parler de ta chronique, Florian, mais il y a beaucoup de marques qui sont les noms, je veux dire Ford, c'est parce que c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est un nom déjà de base. Je veux dire, les mecs ont bossé Adidas, pareil, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Samsung peut-être Renault, pas, mais va savoir.
Renault, le fameux Renault.
Merci beaucoup. Excellent.
Pour continuer sur la chronique, reprenons un petit peu avec la chronique. Moi, d'un point de vue de forme, avant de rentrer dans le fond, sur la forme, on n'avait jamais fait le doublage. C'est très bon. J'ai trouvé ça très drôle. Le doublage de l'anglais dans la jungle.
Ah oui. Je te coupe la parole. Rire. C'était pas de l'anglais. Là, c'était littéralement de l'américain, quoi.
Oui,
c'était pas de l'anglais, c'était de l'américain.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, tout à fait.
Et d'ailleurs, vous ne le savez pas, ça fait partie de la magie du, comment dire, du chroniqueur, mais la voix anglaise ne dit pas du tout ce que vous imaginez.
Sauf la première et la dernière phrase.
Exactement.
Ouais. Et t'as raconté des conneries au milieu, genre « Yeah, I'm really fond of soap, I like to eat my... » C'est ça que tu as dit des conneries ?
C'est plus ou moins ça, ouais.
Ah, c'est drôle. Ça va forcer les auditeurs à réécouter.
Exactement. Je laisserai les auditeurs décortiquer toutes les phrases, passer ça dans un logiciel de type les experts à Miami, tu vois, pour essayer de comprendre ce que je dis derrière.
Et puis les auditeurs peuvent aussi la réécouter à l'envers pour t'entendre invoquer Satan.
Alors c'était j'ai une idée de chronique sur ça, mais je pense que je vais jamais la faire parce que c'est vraiment trop compliqué.
Tu nous avais fait un quiz, toi qui es si bon en quiz, tu nous avais fait un quiz à l'envers aussi. C'était encore un grand moment d'aliéner les garçons.
Pourquoi c'est vrai que j'ai fait ça.
Mais oui, pourquoi on fait pas que des quiz, quoi ? Qu'est-ce qui nous prend de faire des chroniques vraiment n'importe quoi. Bref, et sinon, pour revenir sur ta chronique, bah, moi j'ai à peu près tout dit. Moi je voulais surtout dire que Dieu avait la voix de Vincent Cassel en fait. Mais,
c'est déjà pas si mal.
Non, mais ouais, après effectivement, que ne pas mourir est une sorte de malédiction. Et d'ailleurs, il m'a rappelé, Sam, il m'a rappelé un peu mon personnage, c'est pas pour tirer la couette vers moi, hein, mais c'est juste pour faire un renvoi à épisode 42. Il m'a rappelé un peu mon personnage qui cherche à ressentir toujours plus de choses et qui note tout dans son carnet bleu et qui va à la fin jusqu'au sur le pont et on croit qu'il saute, mais en fait, il jette son carnet.
Exactement. Et bah tu sais quoi, c'est exactement ce que j'ai noté pour la partie débat. C'est qu'il y a un petit peu de toi dans cette chronique. Alors il y a un petit peu de toi. Oui, c'est un peu sale. Bon, pourquoi pas. Mais non, il y a effectivement le mec qui cherche à ressentir toutes les sensations, mais il y a aussi le coup de la liste que tu nous as fait il y a deux ou trois épisodes, je crois. Je te laisserai insérer ici ta voix off qui dit quel épisode.
Non, je vais le trouver maintenant. C'était épisode 43.
Il est fort, il est si fort, pouf. Et majoritairement ça, mais effectivement, tu es une inspiration, Thomas. Et je m'en suis rendu compte à la toute fin, quand j'ai écrit la toute dernière phrase, et je me suis dit, merde, ça ressemble quand même beaucoup.
Ouais, mais c'était quand même franchement. Alors déjà, merci beaucoup. Ça me, moi qui suis en ballotage défavorable, ça me remonte le moral. c'était quand même vraiment différent, même dans le ton et tout. Donc, et puis ça parle d'autre chose, juste. Donc non, c'était.
Oui, bien sûr.
Non, cette chronique méritait de voir le jour. Voilà quoi. J'ai pas envie d'en dire plus. Et sinon là, vous voyez ce mème du gamin qui force et qui se retient de dire un truc avec les veines qui dépassent et tout. Je sais pas si vous voyez ce mème là. Je suis un peu comme ça, ouais. Pour pas parler de Nietzsche là, parce que le fait de ne pas mourir, de la vie est une malédiction quand t'es condamné à vivre et tout. Pouh, j'ai des gouttes de sueur qui coulent. Ma bonnette est humide. Bref, voilà. Moi j'ai rien d'autre à rajouter parce que l'épisode va être très long.
Bah, je pense qu'on peut passer à ta chronique alors.
Les 7 vies des chats de Beyrouth.
En temps normal, j'ai déjà tendance à tomber ou à me cogner lorsque je me déplace dans un lieu que je connais mal. Ce qui n'arrange pas mon cas, c'est que la nuit passée, je me cache terrifié dans un placard et que je ne dors presque pas. Le matin, en courant dans le couloir pour rejoindre mes parents dans la cuisine, j'estime mal la distance entre mon front et une porte ouverte. Il y a du sang partout, sur mon front, sur mes mains, sur le lino, mais pas sur la porte. Je pleure et je crie à cause de la douleur, mais pas à cause du sang, qui est pour moi une substance encore mal connue et pas encore synonyme de danger. Mes parents déboulent pour me ramasser et m'examiner. Il va avoir besoin de points de suture, dit ma mère. On sort de la maison pour rejoindre la voiture de mon père. Ma mère, qui d'habitude monte à l'avant, s'assoit à côté de moi sur la banquette arrière pour comprimer ma plaie avec un linge. J'arrête de pleurer dès que je comprends que nous sommes en train de partir de chez ma grand-mère et qu'elle ne vient pas avec nous. J'ai encore mal, mais je suis soulagé de ne plus être dans la même maison qu'elle, de ne plus être à sa merci. La veille, pendant que je cherche des pierres précieuses accroupies dans le gravier, je la vois passer dans la cour avec un sac poubelle vivant. Je me dis qu'il est vivant parce qu'il émet des petits sons mignons et qu'il remue comme dans ce dessin animé que je regarde parfois et dont le héros a pour coéquipier un sac à dos doué de conscience. En général, lorsqu'il se secoue comme ça, c'est qu'il se prépare à cracher un objet qui va aider le héros à résoudre un mystère ou qui va le sortir d'une mauvaise passe. Même si je connais mal ma grand-mère et que je suis timide, ma curiosité est stimulée et je la rejoins pour lui demander ce qui va sortir du sac poubelle. Elle me répond que rien ne va en sortir, que la chatte a accouché et qu'elle va foutre les petits à la flotte. Je ne comprends pas de quoi il en retourne et je la suis naïvement en direction de l'étang. Nous marchons en silence côte à côte avec le sac poubelle vivant entre nous. C'est à mi-chemin que je fais le lien entre les couinements et ces quelques mots, foutre les petits à la flotte. Je fais demi-tour et je cours à toute vitesse dans la maison. Je suis en colère contre ma grand-mère. Comment peut-on faire une chose pareille ? Je rejoins mon père dans le salon pour lui exposer la situation avec mes mots d'enfant. Je m'attends à ce qu'il se scandalise, à ce qu'il bondisse de son fauteuil et qu'il s'exclame « Viens avec moi, j'ai deux mots à dire à Mémé. Mais au lieu de ça, il me demande de me calmer et de m'asseoir. Il commence à me parler de la campagne et de l'ancien temps. Ça me met encore plus en colère. J'ai envie de sortir de la pièce et de claquer la porte, mais je ne le ferai pas parce que je sais que j'aurai des gros problèmes. Quand ma grand-mère rentre, le sac plastique vivant a disparu. Je me tourne sur le canapé pour lui présenter mon dos en signe de protestation, mais je ne suis pas sûr qu'elle comprenne tout à fait le message. Je l'entends se rendre dans la cuisine en traînant des pieds. Une discussion à voix basse commence avec mes parents. Aucun mot ne me parvient à cause de la distance et du niveau très bas de leur voix, mais je sais parfaitement de quoi ils parlent. Le bruit caractéristique de friction entre les chaussures et le sol reprend et se rapproche de moi. Je reste dos tourné. Ma grand-mère. C'est comme ça qu'on fait par chez nous, les petits. On les étouffe avant qu'ils soient grands. Ils sentent rien comme ça, ça leur fait pas de mal. Ce que je comprends, c'est qu'elle n'essaye pas de me rassurer ou de m'éclairer sur les coutumes de sa région. J'interprète ses propos comme une menace en mon encontre, une manière de dire que je suis le prochain sur la liste. Cette fois, je pars en courant en prenant soin d'éviter son regard. Je claque la porte de la maison, mais moins de colère que de peur. Je me réfugie dans les noisetiers au fond du terrain. Je décide que le plus prudent est d'abord de rester caché ici, jusqu'à ce que mes parents m'appellent pour rentrer à cause de la nuit qui tombe, puis de dormir dans le placard de ma chambre cette nuit. À l'hôpital, je pleure un peu à nouveau à cause de tous ces gens malades et bizarres autour de moi. Tout le personnel paraît très occupé. Ils marchent vite et dans tous les sens, comme si je regardais une cassette vidéo en accéléré. Ils se parlent sans interrompre leur course. Nous restons assis comme ça sans rien faire pendant des heures et des heures et je sens que ma mère commence à s'agacer. Son week-end tombe à l'eau et à la place elle doit rester assise à ne rien faire dans un couloir. Comme elle ne peut pas m'en vouloir à moi, elle s'en prend à mon père. Tu pourrais dire à ta mère de ne pas faire ça devant lui la prochaine fois. Il est sensible et c'est qu'un gamin. Elle ne s'en rend pas compte. Parfois j'ai l'impression que dans sa tête, elle est encore sous De Gaulle. Mon père garde son calme, comme d'habitude. Il cherche les bons mots pour apaiser ma mère, mais ça ne marche pas vraiment. Et ma mère continue à lui faire des reproches à travers ma grand-mère. Finalement, il dit « La prochaine fois qu'on viendra, j'emmènerai la chatte se faire stériliser chez le véto. » Je ne connais pas le sens du mot « stériliser », mais ma mère se calme. Elle se mord l'intérieur de la joue plutôt que de renchérir. Un peu plus tard, une infirmière vient me chercher pour au coup de m'appeler. Elle est douce et patiente avec moi. Mes parents ne se disputent plus. Ils me demandent si ça va et ils me disent que je suis courageux et que ça sera bientôt terminé et qu'après ça, on rentrera à la maison pour regarder un film. Il fait chaud aujourd'hui et contrairement au reste de la semaine, le vent ne se lève pas. Je marche à travers Beyrouth depuis ce matin avec Ziad, chez qui je loge de l'autre côté de la ville. Je le félicite pour son endurance en plaisantant sur le fait que les Libanais détestent marcher, en temps normal, et il me rétorque en anglais qu'il n'est peut-être pas tout à fait Libanais puisqu'il vient d'une famille druze. Il embraye sans me laisser le temps de répondre et il m'explique avec son ton monocorde que les minorités religieuses comme les druzes peinent à trouver leur place dans son pays tiraillé entre les trois religions majeures. Je suis musulman, mais ni sunnite ni chiite, alors politiquement je ne compte pas, c'est comme ça. Nous remontons la corniche vers le nord sans échanger un mot. Ziad fume cigarette sur cigarette et l'odeur m'écœure un peu. La Méditerranée scintille à perte de vue comme pour attirer mon attention. En face de nous, un petit groupe d'enfants de 8 ou 9 ans braille en arabe. Ce que je prends d'abord pour un jeu s'avère plutôt en réalité être une querelle. Leur colère se dirige vers l'un d'entre eux, le plus petit, le plus silencieux aussi. Je demande à Ziad de me traduire ce qui se dit, mais il se contente de hausser les épaules, caché derrière ses lunettes de soleil. Un peu plus tard, Ziad me propose d'aller visiter l'université où il a obtenu son diplôme l'année dernière. Il ne se trouve qu'à quelques rues d'ici, à l'abri de l'effervescence de la ville. Nous entrons par la porte principale aux côtés d'élèves. Une bonne partie d'entre eux semblent venir de l'étranger, des Nord-Américains, des Arabes, des Européens. L'architecture des bâtiments est un charmant mélange d'influences traditionnelles et modernes. Les voies sont spacieuses et verdoyantes. Les klaxons des voitures omniprésents ont enfin disparu. Je me dis qu'étudier ici doit être vraiment agréable. Ziad me guide jusqu'à un passage surplombant la partie basse de l'université. Ici, il n'y a plus d'étudiants. Un chat qui apparaît d'un fourré s'approche de moi sans aucune crainte. Il ronronne lorsque je passe ma main dans ses longs poils. Ziad m'explique qu'il y a des centaines de chats dans l'université, peut-être même des milliers. Ils se sont réfugiés ici pendant la guerre, quand leurs propriétaires les ont abandonnés. Ils se sont reproduits et leur descendance n'a jamais vraiment quitté l'université. Sans parler de tous les autres qui arrivent chaque année. Ils sont heureux ici, ils trouvent facilement la nourriture et les étudiants ne les dérangent pas. Ils font partie du décor depuis longtemps. Celui-ci n'a pas l'air errant, dis-je en grattant la tête du chat. C'est parce que l'université s'en occupe. Il y a un vétérinaire dédié uniquement à ça. Il les vaccine, les soigne et les stérilise. Je hoche la tête en plongeant mes yeux dans ceux du chat. J'ai envie de demander à Ziad pourquoi les chats sont stérilisés, mais je ne le fais pas. C'est une question stupide. Ils sont stérilisés pour contrôler leur nombre, pour éviter la surpopulation. Je comprends tout à fait cette démarche, mais pourtant, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une certaine forme de paradoxe. S'occuper aussi bien de ces animaux pour finalement les émasculer, leur donner de l'attention et des soins, puis les empêcher d'avoir une descendance. Le chat se met sur le dos pour me présenter son ventre. Signe de confiance chez les félins. Je le caresse et les ronronnements s'amplifient. Ziad remarque mon intérêt pour le sujet, alors il poursuit. Les chats ont 7 vies. C'est impossible de s'en débarrasser. Heureusement que l'université s'occupe d'eux. Heureusement qu'elle les stérilise. Il y a sûrement plus de chats errants que de druzes à Beyrouth, tu sais. Je lâche un petit rire que je ravale aussitôt. Les packs d'eau minérale sont entassés contre les murs de manière à prendre le moins de place possible. Je compte 66 packs, soit 594 litres. C'est le maximum que nous pouvons conserver dans notre appartement minuscule sans que ça ne le rende invivable. Je calcule que nous pouvons tenir 3 mois, et même certainement plus. Avec le bébé, nous faisons partie des foyers prioritaires pour le réapprovisionnement. Mais j'ai bon espoir que la situation s'améliore d'ici là. J'ai perdu mon emploi en conséquence de la crise qui frappe le pays. Je reste à la maison en attendant un retour à la normale. De toute façon, le gouvernement appelle à restreindre au maximum les déplacements. Les journées sont incroyablement longues et elles semblent capables de s'étirer encore et encore. Je sors 2 ou 3 fois par semaine pour faire quelques courses ou passer à la pharmacie. Le reste du temps, je m'occupe du bébé, je passe du temps avec Mathilde qui est aussi au chômage. J'en profite aussi pour prendre le temps de lire et de me cultiver. Mathilde se moque de moi quand je dis ça, me cultiver. Je télécharge tout un tas d'essais sur ma liseuse. Au départ, je veux lire les Grecs antiques. Mais sans même m'en rendre compte, je me tourne vers des auteurs plus contemporains, et pour la majorité d'entre eux, plus politiques. Un livre en appelle un autre, et les idées qu'ils contiennent, aussi différentes et incompatibles qu'elles puissent être, sont toutes habitées par une forme de vérité, ou du moins, une certaine crédibilité capable de me convaincre. La nuit tombe. Mathilde somnole sur son ordinateur à côté de moi. La télévision est allumée. Elle éclaire la pièce de sa lumière bleutée rassurante. En temps normal, nous ne la regardons pas vraiment. Voire pas du tout. Mais depuis les attaques, nous avons pris l'habitude de regarder le JT tous les soirs. La télévision a ce pouvoir de donner l'illusion de la proximité et de l'exhaustivité. Nous la regardons parce que tout le monde la regarde en ce moment et que nous voulons faire partie du groupe en cette période trouble. À minuit passé, le JT est terminé depuis longtemps. C'est un talk show que je ne connais pas qui est diffusé. Des experts débattent autour du seul sujet qui intéresse l'opinion publique en ce moment, la contamination du réseau d'eau potable français. Et plus particulièrement, Heavy Humanity, le groupe terroriste qui a revendiqué cette action. Si les invités ne sont pas d'accord sur le degré d'indépendance dont jouissent les différentes cellules du groupe au niveau international, ils s'accordent sur l'ampleur de la frappe qui est sans précédent. Le débat demeure respectueux, sans expression de colère particulière. Peut-être en conséquence de la violence des faits. Peut-être par pudeur et parce que les scientifiques ne sont pas encore capables de se prononcer sur le caractère définitif ou non de l'infertilité qui frappe les victimes contaminées. Le contraste est net avec le débat d'avant les attentats. Je me demande si ces gens considèrent qu'ils ont à présent un ennemi en commun ou s'ils ont simplement peur. L'un des invités du talk show trace une filiation directe entre Heavy Humanity et un philosophe suédois ou norvégien dont je ne saisis pas bien le nom. Mathilde vient poser sa tête sur mon épaule et tourne son ordinateur vers moi pour attirer mon attention sur une décoration de table de mariage. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très beau. Et c'est facile à faire en récupérant des choses à gauche et à droite. Je lève les sourcils et je hoche la tête pour avoir l'air concerné par le sujet. Je ne m'intéresse pas vraiment au mariage, ni au mien, ni à celui des autres. Je sais que c'est important pour elle, alors je joue le jeu. Lorsque je lève à nouveau les yeux vers la télévision, ce sont des images d'archives qui se trouvent sur l'écran. Un vieil homme assis sur un fauteuil parle une langue nordique, avec un rythme lent et régulier. Sa tête est constamment dirigée vers le plafond, jamais vers la caméra. Ça lui donne l'air d'être sans arrêt en pleine réflexion. Son épais pull en laine d'une autre époque envoie un message très clair. Mon apparence est le dernier de mes soucis. Une voix off traduit ses propos. Ce que je propose plutôt, c'est de réduire la souffrance, de faire disparaître la famine et la guerre, de prouver notre humilité face aux vivants. Vous savez, la morale est humaine, elle est extérieure à la nature, qui ne s'embarrasse pas d'éviter la souffrance à qui que ce soit. Nous pouvons, en tant qu'espèce, prendre le contrôle de ce que nous sommes et entrer dans ce que je caractériserai d'âge adulte d'Homo sapiens. De manière très pragmatique, je souhaite simplement éviter le pire en prenant les mesures nécessaires en amont. Mathilde ferme son ordinateur et se lève. J'ai sommeil, tu viens de coucher ? Je regarde ça, c'est intéressant, je te rejoins. Mathilde fait la moue un instant et s'éloigne. Le philosophe de la télévision baisse enfin son visage vers la caméra. Je ne suis pas cruel. Ce que je propose, c'est l'inverse de la cruauté. Diviser la population mondiale par, il hésite, disons 10, est à la fois le plus beau cadeau que l'on puisse faire à la vie et la plus belle preuve de maturité à afficher en tant qu'espèce. Comme d'habitude, le fourgon s'arrête au milieu de la rue. À cause de nous, la circulation est bloquée et un embouteillage se forme. Mais personne ne klaxonne ou ne proteste. Les conducteurs restent bien sagement au volant. Nous restons à bord, le temps de vérifier que nous sommes à la bonne adresse. « Ok, c'est ici, on y va », dit le chef. Aucun de nous trois ne répond. On n'entend rien d'autre que le cliquetis de notre matériel et le frottement de nos combinaisons, jusqu'à ce que j'ouvre la portière et que la rumeur matinale de la ville pénètre l'habitacle. Nous entrons dans le hall de l'immeuble. Il y a des plantes en plastique pour décorer. Je m'avance pour appeler l'ascenseur, mais celui-ci s'ouvre au même instant. Un vieillard en peignoir en sort doucement pour s'arrêter face à nous. Je ne sais pas s'il fronce ses sourcils à cause d'une mauvaise vue ou parce qu'il méprise nos uniformes. « C'est un sacré attirail que vous avez là. Vous êtes policier ?»« Pas vraiment, » je marmonne. « Vous êtes quoi alors? Une de ces milices privées ?» Le chef s'agace. « On est là pour le recensement, papy. » Le vieillard grimace et s'écarte. Nous montons tous les quatre dans l'ascenseur. J'appuie sur le bouton 9 qui s'illumine. Le chef se nettoie les ongles. Arrivé à l'étage, nous nous orientons vers l'appartement que nous cherchons. Je frappe lourdement et la porte s'ouvre quelques secondes plus tard. Un jeune homme d'à peu plus de 20 ans apparaît. Il y a de fortes chances que nous venions de le réveiller. Il s'apprête à dire quelque chose quand le chef l'interrompt. « Monsieur Mancini, vous avez été relancé de multiples fois par les agents du planning familial. Vous ne vous êtes jamais présenté aux sessions préalables en information qui vous ont été assignées. Nous sommes donc en charge de régulariser votre situation. » Il parle rapidement et d'un ton monotone. Il récite. Mancini s'apprête à lui répondre, mais à nouveau, le chef le coupe. « Vous m'excuserez, mais pour votre sécurité comme pour la nôtre, » il ne termine pas sa phrase et décroche la matraque électrique accrochée à sa ceinture. Une seconde plus tard, Mancini s'écroule au sol dans un grognement bestial. Tous les muscles de son corps se contractent et la teinte de sa peau vire au rouge. Je le ramasse avec mes collègues et nous le traînons jusqu'au lit, quelques mètres plus loin, dans la même pièce. Son studio est bordélique. Il y a des posters sur les murs et des vêtements sur la moquette. Mes collègues s'occupent de tenir Mancini en place et de l'anesthésier. Un chaton caché sous le lit s'échappe à toute vitesse, mais le chef l'attrape. « Un ami des bêtes, » dit-il. Il tient le chaton face à son visage. Son dossier dit qu'il a des velléités de révolution et qu'en ligne, il ne s'en cache pas. Ne prenez pas de précautions avec lui. Faites-lui voir comment la société s'occupe des petits-fils de pute d'égoïstes reproducteurs dans son genre. Il repose le chaton par terre, qui file vers la salle de bain. Mancini est dans les vapes. Je retire son pantalon pour libérer ses parties génitales, puis je pose sur le lit la sacoche qui contient les instruments. Selon la procédure, c'est le chef qui devrait opérer. Mais ce n'est presque jamais le cas dans la réalité. L'un de mes collègues demande « On tire à courte paille ?» Mais l'autre se porte volontaire. Tant mieux. Je n'aime pas particulièrement faire ça. Je vais m'asseoir plus loin dans la pièce pendant l'opération. Le chat s'approche de moi. Il est si léger que ses pas sont totalement silencieux. Il se frotte sur mes bottes pour attirer mon attention. Je ne le caresse pas. J'allume plutôt une cigarette que je fume rapidement. J'ai commencé à fumer il y a 2 ans. Je revois Mathilde me dire en hurlant que personne ne commence à fumer passé 20 ans, alors encore moins passé 40, la veine de son cou dilatée par la colère. Je m'apprête à allumer une deuxième cigarette quand mes collègues annoncent que l'opération est terminée. Je me dis qu'ils ont fait particulièrement vite. Je me lève et m'approche de Mancini qui baigne dans ses draps sanguinolents. Il se réveillera dans quelques heures, soulagé de quelques grammes de lui-même. Le chef jette quelques documents sur son torse, puis il décide qu'il est temps de quitter les lieux. Dehors, l'embouteillage derrière le fourgon a rétréci. Les conducteurs ont fini par décider d'emprunter un autre chemin. Ceux qui restent dans la file prennent soin de ne pas croiser nos regards. Je m'installe à l'arrière. Le chef demande « T'attends de quelqu'un un café ?» J'ai en effet très envie d'un café.
Voilà pour moi.
Et payé.
C'est un morceau.
C'est un morceau. C'est un sacré morceau. Est-ce que tu nous ferais pas un petit résumé, Thomas?
Ouais, je vais vous faire un topo. D'ailleurs, effectivement, donc, comme je vous disais en intro, c'est 4 morceaux, 4 tranches de vie d'une même personne à 4 époques différentes. Et à chaque fois, voilà, donc c'est construit en 4 parties. Chaque partie est nourrie, on va dire, d'itérations et de petits échos aux parties précédentes à chaque fois. Et en fait, on voit que dans une seule vie, On peut changer radicalement, on peut évoluer beaucoup, et une idée aussi peut faire son chemin. Elle peut sembler être repoussante au début et devenir à la fin nécessaire ou acceptable à toute fin. Donc la première partie, c'est un gamin qui découvre le mot stérilisation, le fait qu'on puisse stériliser des chats. La deuxième, c'est le même gars, mais un peu plus âgé, on peut imaginer 10 ans plus tard, qui se retrouve à voir la stérilisation à grande échelle à Beyrouth, et il se dit putain, mais c'est bizarre, on peut faire ça pour leur bien, stériliser pour le bien des gens, enfin des chats, c'est curieux, en même temps il y a quelque chose qui choque.
Après
c'est le même gars, il y a des attentats, on se rend compte qu'il y a un groupe terroriste qui s'appelle Heavy Humanity
c'est des Suédois.
Non, c'est pas trop. Ça, c'est rapport au philosophe qui est après. Attends, je vais y venir. Et en fait, Evil Humanity, c'est des terroristes qui empoisonnaient l'eau en France pour rendre les gens infertiles, en fait. Et du coup, c'est pour ça que le personnage est chez lui avec ses packs d'eau, et etc. Et il voit ce philosophe à la télé qui aurait influencé Evil Humanity,
ouais, c'est ça, ouais.
Et qui prône la
stérilisation massive.
La contraception, en tout cas, peut-être plus que la stérilisation, parce qu'il a l'air moins extrémiste. Mmh. Et enfin, la dernière partie, c'est notre même bonhomme, qui fait partie d'une sorte de milice, enfin pas de milice du coup parce que c'est un truc officiel d'État, ou qui appartient même au planning familial, que je trouvais un peu rigolo parce que planning familial supposait être des good guys à la base, et qui va en fait simplement chez un mec qui a refusé de se faire stériliser pour le stériliser dans le sang, ce qui sous-entend que avec tout ce que je dis, le fait que les gens veulent pas croiser son regard, qu'ils osent pas les klaxonner, etc. Que en fait on est passé dans une société, une dictature en fait. Voilà.
Bah,
bizarrement pour le bien de l'humanité.
C'est sûr. Mais j'avais juste compris que je croyais que le philosophe suédois c'était un peu le gourou, le chef des terroristes
c'est un peu ça, mais en fait j'ai dû raccourcir pas mal parce qu'elle était déjà très longue, vu que c'était une nouvelle, comme j'avais dit, c'est une nouvelle que j'avais écrite, elle était beaucoup plus longue, et j'ai raccourci notamment ce passage là où en fait on parle de la filiation entre Heavy Humanity se veut de ce mec là mais en fait voilà, donc effectivement il faut s'accrocher, hein. Je reconnais que c'était fait pour être écrit, et des fois il suffit que tu rates un truc et putain t'as passé tout le reste, même si je l'ai réécrit pas mal.
Ça va sur la compréhension, j'ai trouvé. Et puis surtout, je me suis dit, la dernière remarque que je me suis écrite, je me suis dit, Florian s'est peut-être inspiré de ta chronique avec la liste ou le mec qui va sauter pour le point son petit carnet là. Mais après, je me suis dit, finalement, ta chronique, c'est la chronique de Florian de la dernière fois. Hein. Florian, il se faisait stériliser les humains par des aliens.
Oui,
toi, finalement, tu fais stériliser des humains par d'autres humains pour que ça aille.
C'est le sequel, quoi.
Sauf que Florian, c'était un dialogue avec un pénis, toi c'est peut-être un petit peu plus fin, mais
mais fin, ouais, ou autre chose, quoi. Ouais,
c'est plus aride, plus deep, tu vois.
Ouais, c'est peut-être un peu plus deep, il y a pas d'alien, mais bon, dans l'idée vous inspirez, c'est bien.
Oui, mais en fait on est tous la même personne, c'est toi qui nous l'a dit, c'est toi qui nous l'a appris.
Tout à fait. Tout se croise, c'est bon, on est bon.
Ouais, voilà.
Et sinon, juste sur ta voix, t'as pris une drôle de voix, je sais pas, t'as mis un filtre, un truc comme ça. C'est quoi cette voix? En plus avec la musique derrière, déjà on croirait que le narrateur il va se mettre à pleurer tout le long. À un moment je croyais qu'à un moment ça allait craquer, que t'allais éclater en larmes et que la chronique ça allait être tes pleurs pendant genre 10 minutes, tu vois. Mais déjà ça faisait un peu ça, mais intéressant. Et avec la musique en plus, ton choix de musique, tu sais, qui est vachement, qui met la pression, la montée comme ça, ça fait un peu peur, il y a de la pression.
Je vais t'expliquer, c'est aride vraiment, et voilà, j'ai été aride pour le coup. La voix, j'ai essayé de prendre un ton très neutre. Parce qu'en fait, toute la chronique est au présent, pour montrer que voilà, le sorte d'évolution, je voulais pas mettre au passé, après au présent, genre, tout est au présent, et je voulais prendre un ton extrêmement neutre. Alors que parfois, je suis un piètre comédien, mais parfois j'essaie d'en rajouter un peu, de faire un peu de fantaisie dans certaines chroniques qui sont un peu plus drôles, voilà, comme la précédente par exemple.
Là, il y a pas de fantaisie, je te confirme.
Non, et du coup, je voulais être très très droit, très aride et très aride. Et même chose avec la musique derrière. Enfin, c'est vrai qu'à nouveau, on se parle d'une chanson de 15 minutes, de 12 minutes, instrumentale, noise, tout ça. Mais je voulais un truc qui évolue comme ça, une seule chanson, tu vois, jusqu'à la fin où il y a une sorte d'un truc d'illumination un peu légère où on comprend, tu vois. Mais tout ça a été voulu, mais c'est effectivement, c'est pour ça que je suis passé à la fin. On s'était dit que si on mettait ça au début, on allait peut-être faire peur aux gens.
C'est possible. Non, mais après, moi, j'ai des commentaires aussi. Sur le fond, j'ai rien à redire, effectivement. Et on pourrait même, ça pourrait même être une série, tu vois, une série HBO. C'est pour dire, c'est un bon compliment.
Merci beaucoup, Florian, ça compte beaucoup.
Mais après, sur la forme, c'est vrai que je me suis dit, déjà de une, t'as fumé un paquet de gitane avant l'enregistrement.
Je sortais du Covid. Hein.
Ça s'entendait de ouf. Et de deux, la musique, elle surenchérit, mais constamment. Elle fait monter la tension vraiment du début jusqu'à la fin. Et tu t'attends à ce qui est presque un jumpscare, ou tu vois, ou une chute sur la fin dans la musique. Et en fait, jamais.
tu vois.
Non. Que dalle. En fait, je pense que c'est aussi une influence. J'y pense que maintenant. Moi, je parle d'un truc quand même qui est un peu glauque, qui est un peu maléfique, le fait de vouloir couper les couilles des gens, etc. Et je pense que c'est l'influence de mon écrivain préféré, l'un de mes écrivains préférés, qui est Roberto Bolaño, qui a écrit un livre qui s'appelle 2666 et qui a été adapté au théâtre. Et quand je suis allé voir cette pièce de théâtre, il y avait en effet du gros métal un peu comme ça, enfin un peu noise qui rajoute au côté maléfique du parce que le roman parle du mal au sens large. Et du coup, je pense que je me suis un peu laissé influencer sans m'en rendre compte en faisant ça tout à fait. Mais effectivement, j'ai failli pas mettre cette chanson-là, j'en avais d'autres. Et mon second choix en fait. Au début, j'avais 4 morceaux avec des trucs un peu plus ironiques, comme j'ai mis à la fin en fait. Puis finalement, non, mais bon, voilà, écoutez, Arte, c'est la nuit quoi.
Bah écoute, tu donnes raison à Noémie et c'est pas grave. Non, au moins, t'as ta place, Thomas, dans ce podcast.
Elle a raison, Noémie, depuis le début, elle a raison.
Et j'ai envie de te dire, on va te garder.
Ok, merci, c'est gentil.
On te garde. Malgré
c'est parce que c'est moi qui fais le montage. C'est parce que je fais le montage.
Oui, et que tu hostes et que tu le fais bien. Donc, bon,
c'est gentil. Je voulais juste dire un dernier truc pour tous nos amis qui n'aiment pas la vie. Parce que je sais qu'ils sont nombreux.
Parce qu'il y en a.
Il existe vraiment des philosophes qui prônent la disparition de l'humanité.
Classique, ouais.
C'est une démarche philosophique. Ouais. Et il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité, qui existe aujourd'hui. Il y a des réunions, ils font des brunchs le dimanche, très sympa, vous pouvez y aller. Les gens sont vraiment plein de vie. Je vous recommande, ça existe vraiment. Le mouvement volontaire pour l'extinction. Non, le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité, pardon.
Mais alors là, c'est un des mouvements, mais je pense qu'il y en a plein d'autres et qui sont gradés, graduellement à des endroits différents, parce que t'as aussi plein de gens qui se disent qu'il faut moins de enfin qu'il faut pas faire d'enfants, etc., mais sans jusqu'à l'extinction de l'humanité pour le bien-être de la planète, pour le bien-être du vivant, etc.
Mais eux, ils veulent l'extinction de l'humanité.
Oui, bien
sûr. Ça existe depuis très longtemps effectivement, mais eux, c'est structuré, ça existe depuis 1991, ils font vraiment des choses. Ouais. Leur slogan, c'est May we live long and die out. Die out.
Ah, c'est marrant, mais c'est plein de méchants de grands films et super cultes et de grands romans et de plein de choses. Des gens qui veulent éradiquer une partie de l'humanité pour faire aller mieux la planète, c'est un classique du genre.
Est-ce que ce serait pas le cas du Covid, justement?
Peut-être.
Le Covid qui est là pour anéantir toute une partie de la population.
Le problème, c'est que le Covid fait plus de mal aux personnes de plus de 60 ans qui sont pas les plus, enfin, qui se sont déjà reproduits, quoi. Donc,
c'est une
mauvaise stratégie, quoi, si c'est le
cas. Alors qu'une maladie qui rendrait, imaginez la même chose, parce que du coup, j'arrête pas de penser à ça, parce qu'après le Covid, j'ai fait une micro-dépression, parce que, effectivement, une personne sur 4 qui chope le Covid chope des maladies mentales après, et moi, j'ai fait une petite semaine de dépression, je bouffais plus, tout ça. Et donc je me suis dit, mais imaginez si, c'est une parenthèse, imaginez si le Covid, imaginez une maladie, une grippe qui donne de la dépression, ou alors imaginez une maladie qui se propage comme une grippe mais qui t'empêche d'avoir des gosses derrière, quoi. Et imagine que là aujourd'hui ça serait la même chose, il y aurait 2 millions de personnes en France qui ne pourraient plus avoir de gosses à cause d'une maladie, ça serait ouf.
Ouais. Oui, c'est
pas pourquoi je parle de ça, mais c'est parce que je suis dark. Je suis vraiment dark.
Je pense que
il a l'air de passer au cuisine.
Je pense qu'il nous faut un cuisine. Ouais, j'allais exactement dire ça. J'allais dire, je pense qu'il nous faut un cuisine. Il nous faut de l'amour. Il nous faut de l'humour. Et il nous faut Florian. Alors transition.
Ça, tu vas être servi, mon ami. Moi, je te le dis.
C'est vrai. Puis là, tu nous teases. Ah, enfin, Florian. Enfin,
j'aurais aimé ne jamais avoir entendu ce que tu viens de faire.
On a déjà dormi ensemble plein de fois en voyage et je sais pas où. Je suis sûr que la nuit t'as dû entendre des bruits chelous, genre
pas avec mon prénom après, tu vois.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Si on se faisait un petit quiz,
ouais, on va se donner des noms d'équipe et tout.
Non, même pas. Parce qu'en fait, je pense que, à mon avis, c'est dur. Ce quiz, il est très dur, à mon avis. Donc, du coup, on va juste. Le but, c'est que vous trouviez. Point. C'est pas plus rapidement ni rien. C'est juste
on va s'entraider. On va faire.
Ouais, je pense que le but, vraiment, c'est que c'est que vous vous entraidiez. Parce qu'en plus de ça, donc ça partait sur la musique. Je vais vous raconter un petit peu. En fait, pour Résurrection, je vais faire revivre des chanteurs morts.
Ouais.
Attention, Thomas, je te
coupe. Tu vas chanter
tout de suite, même si. Non, je ne vais pas chanter, justement.
Aïe, aïe, aïe.
Ce que je vais faire, c'est que je vais faire revivre des chanteurs morts en les mélangeant à des chanteurs vivants. C'est un quiz qui est largement inspiré d'un jeu qui s'appelle Les films qui couchent ensemble, du Floodcast. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui.
Et le Floodcast et le jeu. Mais en gros, le principe, c'est de faire coucher deux films ensemble pour du coup donner un troisième titre de film fun et bigarré.
Mm-hmm.
Ou bien encore, c'est inspiré aussi du Johnny Hallyday de Navo et Ken Kojandi.
Ouais, tout ça, c'est les, c'est, C'est le même acabit.
C'est la même bande de copains, c'est tout ça, quoi. Exactement. Et du coup, bon, voilà.
Du coup, je ne connais pas, enfin, je connais quelques John Dienavo, mais je ne connais pas trop le Floodcast ni le film qui couche ensemble, là. Du coup, j'ai pas trop bien compris comment ça pouvait se matérialiser.
Et ben, justement, j'ai pas encore expliqué et je vais le faire maintenant. Le but, c'est très simple. Je vais vous décrire un chanteur qui est en fait un mélange de deux chanteurs.
D'accord.
Ok. Exemple, Boo Barbara. C'est un mélange de Booba et de Barbara.
D'accord. Bah, c'est, là, c'est pas trop dur pour l'instant.
Henri Salvador Adamo, c'est un mélange entre Henri Salvador et Salvatore Adamo. D'accord ?
Oui.
D'accord.
Vous comprenez ? Oui. Et donc, du coup, je vais vous faire sa bio un petit peu, etc. Et vous allez devoir deviner, du coup, le nom un peu.
Ah, nous, okay. On doit deviner le nom, Vic. Et,
d'accord, ok, voilà. j'ai compris. Donc, c'est le nom, il va être dur à trouver, parce qu'il faut qu'on trouve un lien dans
exactement.
Le nom.
Exactement.
D'accord. C'est ça. Parce qu'avec la bio, il va falloir deviner où est-ce que j'ai modifié les trucs, etc. pour coller avec les deux personnes en même temps.
Ah non, ça va être drôle. Bon, ça, c'est, okay. C'est du Florian tout craché, quoi.
Ok. C'est Vic, il est dépité d'emblée, quoi. Est-ce que vous voulez commencer directement par le premier ? Le premier, il est déjà pas simple, mais on va faire comme on peut.
Ouais, bah, commencer par le premier, j'ai envie de te dire, oui.
Oui. Petite musique, Thomas, que je t'enverrai pour le montage, pour dynamiser un peu le tout.
Musique.
Alors, Vic ?
Oui.
Thomas ?
Oui.
Je suis un artiste français et je partage ma vie entre Paris et Ajaccio. J'ai été révélé au grand public par ma chanson iconique qui parle d'une femme nommée Marcia qui a le cancer et qui tombe amoureuse d'un bossu qui sonne les cloches de la cathédrale de Notre-Dame. Mon mari est mort.
Ah, je sais.
Du coup, on a arrêté notre groupe de musique et j'ai fait une carrière solo qui marche pas de ouf, mais c'est pas trop grave car je suis rentré dans la troupe des Enfoirés et je suis devenu coach pour The Voice Kids.
Alors, je pense qu'on a Patrick Fiori dedans et je pense qu'on a Catherine Ringer aussi, mais je sais pas ce que ça fait.
Parce que... Tout à fait. Et bah, du coup, Catherine Ringer dans son groupe, c'est.
Ah, c'est Rita Mitsouko.
Rita Mitsouko, Patrick Fiori.
Patrick Fiori Tamitsouko.
Patrick Fiori Tamitsouko.
Voilà, bravo Florian, c'est si compliqué.
c'est si compliqué, on est d'accord. Les prochains vont pas aider.
Vic, tu vas t'en sortir ?
Allez, on y va.
Mais pardon, Vic, il a fait un brain fart. C'est une douleur pour lui.
Mais je crois qu'il a fait un burn-out, littéralement. Il va plus pouvoir enregistrer.
Alors, Vic, Thomas, je suis un artiste franco-américain. Je suis l'un des fondateurs du mouvement grunge en Patagonie. Je me suis fait repérer avec mon live acoustique sur MTV durant lequel j'interprète la chanson « Ma liberté de sentir le teen spirit » qui est devenue un hymne pour tous les jeunes de ma génération. J'ai eu des problèmes avec le fisc, du coup je me suis exilé en Patagonie où je me suis suicidé d'une balle de fusil dans la tête. Mais maintenant, ça va mieux, je me refais tranquillement une santé financière en co-présentant The Voice.
Tu l'as, Vic ?
J'ai le premier, mais j'ai pas le deuxième.
Florent Panirvana ?
Exactement.
C'est drôle ce jeu. Bravo.
Franchement, c'est pas facile à trouver. On s'est posé dessus une bonne partie de l'après-midi avec ma compagne.
Avec ta ghostwriter.
Exactement. Et c'est très drôle à trouver, mais c'est pas facile à écrire.
Ah, j'imagine. C'est du boulot.
C'est parti pour le prochain.
Oui.
Le prochain, je pense que c'est l'un des plus compliqués. On va voir. Vic, Thomas. Je suis un artiste afro-blanc américain né à Memphis. Et j'ai des origines juives ukrainiennes. On me surnomme le King de Brooklyn. On m'a découvert par mon titre Fly Away, With My Blue Sweat Shoes. Je suis sorti avec de nombreuses femmes, comme par exemple Lisa Bonet, Vanessa Paradis, Nicole Kidman, mais aussi Naomi Campbell, avec qui j'ai eu une fille, Lisa Marie, qui s'est mariée avec Michael Jackson.
Oh putain, donc on a Elvis là dans le lot, et l'autre, un juif.
Exactement.
Un juif qui vient de Brooklyn, et il s'est marié avec...
Afro-américain...
Juif afro-américain
il est métis.
Ah ok.
Il a des origines juives ukrainiennes. La chanson Fly Away.
Yannick Noah ?
Non. Yannick Noah ? Non.
Ça t'a pas choqué.
Celui-là, il est dur.
Vic, parle un peu, aide-nous, Vic. Non, attends, on va trouver. Attends, c'est Vic et moi, tu sais qui on est ou pas ? On est des gens connus. On travaille à la télé. Merde.
Non, je l'ai pas vraiment.
Il est sorti avec de nombreuses femmes comme Lisa Bonet, Vanessa Paradis, Nicole Kidman, mais aussi Naomi Campbell.
Attends, Vanessa Paradis, on peut trouver du coup avec qui elle est sortie. Ah bah oui, je sais. C'est Lenny Kravitz.
Ouais. Tout à fait, et du coup ça nous donne
Elvis Presley Kravitz. Non, ça marche pas. Lenny Kravitz.
Si, Elvis Presley Kravitz.
Ah, c'est ça. Bravo. Bravo, Vic.
le prochain, je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour.
C'est vrai ?
Ouais. Je suis un artiste franco-néerlandais. Mon vrai nom est Jean-Philippe Otto Levenbach. Dans les années 60, je popularise le rock'n'roll en France avec une chanson qui s'appelle Allumer le feu chez Vanina. Depuis, j'ai fait des dizaines d'albums. Je suis très secret sur
Johnny Hallyday.
Johnny Hallyday. Exactement. J'ai fait publiquement mon coming out en me mariant avec mon ami de toujours Eddie Mitchell, etc.
J'imagine. En plus, je vois la tête de Johnny Hallyday. Et c'est vraiment. Il est beau, quoi. Il est beau. Il a la frange, mais il a aussi la pose avec le pantalon en cuir, tu vois, avec le petit déhanché. Johnny Hallyday, je l'aime.
Non mais c'est super, imagine vraiment le mash-up entre les deux artistes, peux, ouais. Moi ça me fait mourir de rire.
J'allais dire tu peux faire des montages, c'est peut-être beaucoup de travail quand même pour un post sur Twitter qui va avoir 20 likes. Bon, ok, vas-y, pardon.
C'est clair, on va plutôt demander à la communauté de le faire.
Ouais mais j'ai un montage de Johnny Hallyday, faut se lever tôt quand même. Parce que... Bon ok,
c'est vrai. Le prochain, alors à partir de là j'en ai fait des plus, c'est que des courtes,
ouais.
Parce que c'est difficile à écrire, donc les prochaines elles sont courtes, il y en a trois autres. Et voici la prochaine. Je suis un artiste de 76 ans, né à Casablanca en Isère, et je suis atteint de la mucoviscidose. On m'a connu grâce à la Star Academy, et notamment pour un prime en particulier durant lequel j'ai chanté mon tube de toujours, Allô Maman Muco. Je suis sorti avec Karine Ferry et je suis très pote avec Laurent Voulzy, avec qui j'ai partagé un album.
Ah, Grégory Lemarchal et Souchon, je pense.
Ouais, mais je n'arrive pas à faire le truc.
Grégory
le Marchalin Souchon. Grégory le Marchalin Souchon.
Grégory le Marchalin Souchon.
Oh putain. Merci.
Ça fait un peu un an à rallonge.
Ça sonne bien quand même.
Le prochain.
Oui.
Très court. Je suis la femme de Thomas Dutronc. Je suis morte électrocutée dans mon bain car je voulais changer une ampoule.
La femme de
Thomas Dutronc.
Attends, ouais, de Jacques Dutronc, excusez-moi.
Ah oui, bah, Claude François Hardy.
Exactement.
Et tu vois, Florian, t'as dit que c'était difficile. On a tout trouvé, Vic et moi. On
c'est
on
vrai,
fait une
c'est
sacrée
vrai.
Équipe et puis on n'a pas tardé. Il faut que tu crois. Et bah, mais c'était très drôle.
Okay. Bah, c'est pas fini. Le prochain,
pardon.
Il est. Je suis vraiment pas sûr que vous le trouviez. C'est moderne.
Moque-toi de nous un peu parce que nous on marche un peu à la provocation. Dis-nous qu'on est des merdes et qu'on trouvera jamais. Et tu vas voir que.
Là franchement, j'y crois pas une seule seconde. Je suis égypto-belgo-congolais. Je veux mourir sur scène et je chante. C'est les plus moches qui sucent le mieux.
Alors on a Dalida,
ouais.
Et on a c'est les plus moches qui sucent le mieux. Attends, c'est ouais. Égypto quoi, redis ça.
Égypto, belgo, congolais.
Alors c'est Dalida n'est pas congolaise, elle est égypte.
Non,
mais je crois qu'elle était égyptienne, ouais. Italienne. Alors attends. Attends, Dali.
C'est Stromae. Dali Damso.
Dali Damso. Putain, ouais, mais Damso, moi je suis.
Bravo Vic. T'es notre caution street cred.
Ouais, parce que moi je suis un boomer moi.
Damso, ça s'est fait que non. Hein.
Franchement.
Ouais, mais ça suffit.
Bravo, hein, bravo. Et tu vois, je pense que tu aurais pas mal parlé, il aurait pas trouvé. Il marche un peu comme ça. T'aurais dû, il faut. Vic, si tu veux lui faire faire quelque chose, tu lui dis tu le feras jamais, mange tes morts, et là il va le faire.
J'en ai un dernier.
Ouais, vas-y.
Vous le voulez?
Ah bah oui, on le veut.
Alors, je.
Il a passé l'après-midi à le faire, tu sais. Ouais, genre, c'était un peu dur à faire, c'était chiant. Ouais, tu parles.
C'est ça. Le dernier, c'est. Je suis considéré comme étant l'un des plus grands auteurs-interprètes français, alors que je suis né en Belgique et que j'ai été anobli par la reine Elisabeth II. J'ai chanté Tiny Dancer in Vesoul ou encore Ne me quitte pas, homme fusée.
Elton John Brel. John. Jacques Brelton John. Jacques Brelton
Sir
John.
Jacques Brelton John.
Ah, c'est très drôle.
Et
c'est...
J'en avais plein d'autres que j'ai pas écrit. J'avais Jean-Jacques Goldman Huchao. J'avais Annie Cordidier Super.
Michel Jonas Brothers.
Michel Jonas Brothers, il est bon. J'ai George Michael Jackson.
Ah oui.
J'ai Serge Gainsbourg-Ville.
Ah oui, excellent. Ouais, c'est formidable.
Michel Bergenesis.
En fait, ça marche très bien avec les groupes.
Pas mal, hein.
Avec les groupes, ça donne un petit, petit supplément d'âme qui est encore plus marrant, je trouve. Ou en tout cas, quand tu fais le grand écart fait, entre les,
c'est ça,
entre les mondes.
Bah, là, je vous ai fait Johnny Hallyday, mais sinon, j'avais Johnny Hallydemis Roussos.
Oui, on aime beaucoup aussi.
Qui est pas mal aussi.
On aime beaucoup aussi.
Voilà, c'est tout pour le quiz. J'espère que ça t'a redonné un peu le moral, Thomas, et que tu vas pas vouloir couper les couilles de tout le monde.
Non, moi je coupe les couilles de personne, en tout cas pas sans le consentement, évidemment. Merci Florian, c'était formidable. À chaque fin de quiz, je le dis, mais c'est trop de travail, je le sais, mais si seulement on avait un quiz à chaque épisode, je pense qu'on serait au moins aussi connu que Johnny Hallyday. Facile. Tu vois, mais bon. Bah, c'était super et je pense qu'on va pouvoir se dire adieu. On va mettre une petite musique d'au revoir et on va. Florian va nous expliquer ce qu'il faut faire avec les réseaux sociaux et tout ça, quoi.
Ah bah on peut faire plein de choses avec les réseaux sociaux. Vous savez qu'avec les réseaux sociaux, on peut envoyer des messages à ses proches et on peut aussi du coup leur envoyer le podcast pour partager la bonne humeur et surtout pour liker nos épisodes, partager donc du coup, je suis pas si fort que ça. Hein. Partager le podcast, liker sur iTunes. Qu'est-ce que j'ai confondu encore ? On peut aussi mettre deux étoiles sur Spotify.
Deux étoiles ou cinq. Hein.
et c'est tout majoritairement.
Non,
mais du coup,
c'est
surtout,
déjà bien. Non mais tu sais quoi ? Ce qui compte, c'est que les gens ils en parlent autour d'eux et ce qui compte, c'est que les gens ils donnent de l'amour autour d'eux, même s'ils parlent pas du podcast, même s'ils nous aiment pas. C'est ça qui est important. Parce que qu'est-ce qui compte
exactement
dans la vie à part l'amour et les podcasts ? Rien, rien du tout.
Voilà,
rien d'autre. On se dit à dans 3 semaines. Est-ce qu'on se revoit dans 3 semaines ou on se revoit l'année prochaine ? On sait pas trop.
Si ? On sait pas trop. Oh, non, peut-être non. Du coup, ça sera pas dans 3 semaines.
Ah oui, non, peut-être on va se dire l'année prochaine pour sûr. Mais la question est-ce qu'on revient tout début de l'année prochaine ou est-ce qu'on revient mi-janvier ? Ça, on sait pas.
On sait pas, ça, on sait pas.
On verra.
Si seulement on avait un vrai planning de publication, mais.
Si seulement on était sérieux, des gens professionnels, mais ce n'est pas le cas. On est déjà incapable de faire des épisodes d'1 heure alors qu'on a dit que c'était un format d'1 heure. On a 1 heure et demie.
Mais c'est aussi ça que les gens aiment. Je pense
que les gens, c'est ce qu'ils aiment, c'est vrai. Je pense que les gens.
C'est pas juste ma belle voix et le génie créatif de Vic et tes références socio-culturelles, psychologiques, linguistiques, Roman,
merci. Merci de m'avoir flatté. On va se dire dans 3 semaines et puis n'oubliez pas de. Envoyez-nous des thèmes, envoyez-nous de l'amour, on vous envoie de l'amour en retour et vive la vie. Bisous.
Vive la vie.
Bisous, bisous.
I know you said that he was just your friend. But you socked it to him again and again and again and again and again. These eyes of mine, they don't never fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams, I've got dreams, I've got dreams. Many dreams.